Une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Dom Plante. On sort de notre horaire traditionnel pour aborder un sujet important et d'actualité cette semaine.
On parle du conflit israélo-palestinien, puis en fait de la guerre entre Israël et le Hamas, de la frappe surprise qui est survenue le 7 octobre dernier, puis tout ce qui en découle, tout ce qui a amené à ça. On reçoit Laurence Deschamps-Laporte, qui est directrice au CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, et spécialiste du Moyen-Orient, et Sabrine Amir, journaliste qu'on a déjà reçue au podcast, qui était correspondante à Jérusalem de 2016 à 2020, et qui est conseillère en communication au CERIUM aussi. Donc, et d'ailleurs, le podcast avec Sabrine Amir qu'on a fait il y a 2 ans est encore une référence très, très juste là, et très, très à jour de ce conflit-là, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé du contexte du conflit israélo-palestinien, de son historique. Donc, pour avoir un petit peu plus de contexte, finalement, pour comprendre un petit peu mieux le conflit, vous pouvez aller réécouter ce podcast-là et écouter, bien sûr, le podcast aujourd'hui. Donc, on a parlé, évidemment, de ce qui s'est passé la dernière semaine et ce qui a amené à ça, les réactions de tous, les conséquences de tout ça, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur de ce conflit-là. Une question complexe, pas facile à répondre, très nuancée. C'est pas un sujet facile. Ben, nos sympathies à toutes tous les innocents, toutes leurs familles, toutes les victimes de ce conflit-là, d'un côté ou de l'autre. Il n'y a aucun innocent, aucun civil qui devrait mourir dans des conditions comme ça.
Bien dit. Bon podcast.
Bonne écoute.
Ça roule. Merci d'être là.
Merci à vous. Merci.
C'est super apprécié. J'imagine que votre horaire ces jours-ci est assez dense. Est-ce que vous dormez un peu?
Pas beaucoup. Dans mon cas, en tout cas, parce que je suis ce qui se passe toute la journée, les soirées jusqu'à minuit. Je me lève à 6 heures du matin pour vraiment rattraper ce que j'ai pas pu voir pendant la nuit. Donc, je me fais un devoir de regarder ce qui se passe, vu que j'ai travaillé là quand même pendant plusieurs années. Donc non, je dors pas beaucoup, mais j'ai pas à me plaindre si on compare avec ce que les gens vivent là-bas, sur place, évidemment.
C'est ça. Non, mais je pense qu'on s'inquiète. On s'inquiète de ce qui se passe dans le moment, puis on s'inquiète de toutes les répercussions que cette guerre-là va avoir dans les 30 prochaines années, parce qu'on n'est pas sorti du bois, là.
Ouais.
Tu parles des 30 prochaines années, t'entrevois... C'est pourquoi 30 prochaines années?
Mais tu sais... En ce qui a trait au Moyen-Orient, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de conflits. Quand, même pour les gens qui ne sont pas spécialistes, ils disent « Coudon, il y a beaucoup de conflits dans cette région-là. » Mais c'est vrai que jusqu'à un certain niveau, la question palestinienne, pour les experts de la région, semblait presque oubliée. Okay? Puis je vais vous donner un exemple. C'est que même en ce moment, il y avait plein d'accords de libre-échange, de négociations diplomatiques avec Israël. Puis il y avait une ère dans cette région-là, où est-ce que c'était... Il y avait une condition, toujours, pour les pays du monde arabe, pour les pays du Moyen-Orient, que ces choses-là, okay, ces négociations-là, allaient arriver à la condition qu'il y ait une certaine résolution politique sur le plan de la question palestinienne, que ce soit sur le territoire, sur le droit des réfugiés, quoi que ce soit. Et là, on voyait que ça, si on veut, les tests d'Israël, Netanyahou en particulier, avaient plus ou moins réussi, okay, au regard de la communauté internationale, à marginaliser la question palestinienne et à aller de l'avant avec des types de négociations tout en les laissant de côté. On se disait, ben coudonc, peut-être que c'est cette espèce de conflit-là qui va rester dans une boîte. Tu sais, bon, Sabrina et moi, on n'a jamais pensé que ce soit possible, mais ça semblait gérable du point de vue de Netanyahou, disons. Il y avait même ces accords-là d'Abraham que moi j'étudie, par exemple des accords diplomatiques avec des pays du monde arabe qui permettaient d'avoir des relations diplomatiques formelles. Puis ce qui était marginalisé de tout ce processus-là, puis à mon avis, des relations diplomatiques, c'est toujours louable, mais ça ne réglait rien à la question politique des Palestiniens. Et là, on voit que finalement, ça l'a vraiment littéralement et symboliquement explosé. Mm-hmm. Et là, on voit que c'est un retour à un Moyen-Orient où est-ce que la question, où est-ce que le conflit israélo-palestinien, israélo-Hamas en ce moment, si on veut plus précisément, a vraiment un risque de déstabiliser la région. Puis ça, ces choses-là ne se règlent pas en 2-3 ans.
Et on va en parler encore longtemps parce que le statu quo n'est plus possible maintenant. Jamais Israël va accepter de vivre à côté d'une bande de Gaza qui est gouvernée par le Hamas. Et on est en train de réécrire une page de l'histoire de ce conflit-là, littéralement. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, l'a dit. Ça va changer le Moyen-Orient. Donc, c'est du jamais vu, c'est inédit ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et ça va changer assurément, à mon avis, le cours du conflit.
Si on veut faire les choses dans leur ordre, le Hamas, qu'est-ce que c'est et comment ils en sont arrivés, où est-ce qu'ils en sont arrivés le 7 octobre?
Peut-être que je peux juste dire un mot contextuellement sur politiquement comment les Palestiniens sont représentés. Puis Sabrina, si t'es à l'aise d'aller un petit peu plus en détail sur, sur le Hamas. Donc, si on veut, il y a comme... trois entités politiques qui représentent les Palestiniens, qui ne sont pas nécessairement vues comme légitimes par les Palestiniens eux-mêmes, OK? Mais il y a ce qu'on appelle le PLO, OK? Le Palestinian Liberation Organization, qui, pendant un moment, était même vue comme une organisation terroriste, mais qui est devenue plus ou moins, qui s'est pacifiée, qui est devenue acceptée sur la scène internationale, qui est maintenant, si on veut, la représentation internationale des Palestiniens. Donc, là, il y a des États dans le monde qui reconnaissent un État de la Palestine comme un pays légitime. Ce n'est pas le cas du Canada. Il y a un grand nombre de pays occidentaux qui soutiennent la position qu'un État palestinien ne peut être reconnu qu'après des négociations directes entre Israël et les autorités palestiniennes. On y reviendra sur, éventuellement sur est-ce que ça va être possible ça un jour, est-ce que c'est même réaliste. Alors, en attendant, ils ne reconnaissent pas un État palestinien, mais ça ne change pas que le PLO, c'est un peu l'entité qui représente les Palestiniens à l'étranger, c'est-à-dire à l'ONU, au Canada, on a une délégation, pas une ambassade, parce que ce n'est pas reconnu comme un pays du PLO. En Cisjordanie, donc les Palestiniens vivent sur deux territoires, OK? La Cisjordanie, en anglais, on dit West Bank, parce que c'est la banque du Jourdain, qui est collée, si on veut, l'autre pays le plus proche, c'est la Jordanie, et la bande de Gaza, qui est collée le pays entre la mer et la péninsule du Sinaï, qui appartient à l'Égypte, qui est le territoire égyptien, mais qui a été au cœur de plusieurs guerres dans l'histoire.
Et c'est pas géographiquement lié, là. Il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a pas de lien physique entre les deux.
Alors, si on veut rentrer ou sortir de la bande de Gaza, c'est très difficile. Il faut passer par la péninsule du Sinaï ou passer par Israël, mais c'est très difficile pour ceux qui sont pas israéliens. Et pour la Cisjordanie, selon les passages par Israël ou plus facilement pour certains Palestiniens par la Jordanie, qui est presque sa population à plus de 50 % d'origine palestinienne. Okay. Alors, il y a des populations palestiniennes qui sont très grandes dans le reste de la région aussi.
Mais il n'y a pas de lien
géographique.
Puis de se rendre d'un point à l'autre, c'est pas possible.
Surtout aussi parce que Gaza est sous blocus depuis 2007. Ouais. Donc, les gens ne peuvent pas entrer et sortir comme ils veulent. Il y a les journalistes, les diplomates, les humanitaires qui peuvent aller à Gaza. Les Palestiniens ont besoin d'un permis pour sortir de Gaza. Donc, par exemple, pour un Palestinien de Gaza, de se rendre à Jérusalem à 90 km à vol d'oiseau, ça prend un permis d'Israël, du COGAT, et souvent, ils réussissent pas à l'avoir ou ça peut prendre des mois et des mois. Donc, si, par exemple, une femme palestinienne a besoin de soins de santé pour soigner un cancer du sein à Jérusalem-Est, elle va probablement mourir de son cancer du sein. Donc, juste pour vous donner une petite idée. Et Jérusalem-Est, c'est la partie occupée par Israël de Jérusalem qui est connectée à la Cisjordanie dont parlait Laurence. Et donc, tout ce territoire-là est collé à la Jordanie. Les gens circulent un peu plus librement, mais il y a quand même des checkpoints. Et pour les Palestiniens de la Cisjordanie, ça prend aussi des permis pour entrer en Israël.
Donc, tout ça pour dire que dans le territoire qu'on appelle la Cisjordanie, il y a un gouvernement qu'on appelle l'autorité palestinienne, dont le parti au pouvoir politique s'appelle le Fatah. Et il n'y a pas eu d'élection depuis plus d'une dizaine d'années, presque 15, pour plein de raisons dans lesquelles on pourrait aller. Moi, je dirais aussi politiquement, parce que c'est très dangereux en ce moment, s'il y a une élection, c'est très possible que la Hamas gagne. Fait que même pour la stabilité internationale, oui, il n'y a pas d'élection, mais aussi le Fatah, ce parti politique-là qui est au pouvoir, il n'est pas particulièrement populaire. Donc, et dans la bande de Gaza, c'est le Hamas qui est au pouvoir, qui a... Bon, au dire du Hamas, il y a une aile politique et une aile militaire, si on veut, ou c'est le groupe terroriste. Mm-hmm. Sauf que pour beaucoup de pays comme le Canada, peu importe, tout est listé sur le code canadien comme le Hamas égale entité terroriste. Beaucoup de de pays ne font pas la différence entre une soi-disant aile politique et une aile militaire. Ça tient pour d'autres groupes pas similaires, mais disons qui existent dans la région, comme le Hezbollah, par exemple, au Liban.
Ouais. Puis quand on et dit donc, le Hamas est au pouvoir, c'est un pouvoir pris de force, c'est pas un pouvoir non. démocratique, non?
Voilà, donc le Hamas est né en 1987 dans la foulée de la première intifada, donc le soulèvement des Palestiniens, la guerre des pierres. Et Hamas, c'est un acronyme en arabe, ça veut dire mouvement de résistance islamique. C'est un mouvement qui est issu des frères musulmans, qui étaient auparavant au pouvoir, entre autres, en Égypte. Mm-hmm. Et donc, le Hamas, il y a eu des élections législatives dans les territoires palestiniens, et le Hamas a été élu en 2006, et s'en est suivi une guerre fratricide avec le Fatah de Mahmoud Abbas.
Ils sont en guerre, hein, les deux partis politiques.
Mm-hmm. Exactement. Le Fatah de Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, entre autres, qui contrôle davantage la Cisjordanie, qui gouverne la Cisjordanie. Et donc, ils ont pris le pouvoir en 2007. Et c'est à ce moment-là qu'Israël a imposé son blocus sur la bande de Gaza.
Donc, c'est au moment où est-ce que le Hamas a pris le pouvoir que ce blocus-là a été mis en place.
Voilà, parce
que c'était une réaction à cette prise de pouvoir-là?
Oui, exactement, parce que le Hamas est considéré comme un groupe terroriste par Israël, parce que le Hamas a fait beaucoup d'attentats terroristes.
Il est en guerre formellement avec Israël.
Durant la seconde intifada, les bus qui sautaient à Tel Aviv, mm-hmm. c'était souvent le Hamas. Et donc, effectivement, le Hamas se présente comme un mouvement qui a une aile politique et une aile militaire, donc les brigades Al-Qassam, on en entend beaucoup parler ces jours-ci. Et donc, c'est un mouvement qui est au pouvoir depuis ce temps-là. Donc, ça fait quoi, une quinzaine d'années maintenant?
Juste en Cisjordanie, pas d'élection. Ouais. Ouais.
Voilà.
Et est-ce qu'il y a une branche du Hamas aussi en Cisjordanie, en fait, ou est-ce que c'est lié?
Oui, c'est lié. Puis il y a un chapitre aussi en Cisjordanie avec un leader en Cisjordanie. Et on a vu dans les dernières années que le Hamas était de plus en plus populaire en Cisjordanie devant le vide politique laissé par Mahmoud Abbas, qui gouverne sans élection et qui est accusé par les Palestiniens de collaborer, je le mets entre guillemets, avec Israël, notamment tout ce qui est la coordination sécuritaire entre Israël, donc l'armée israélienne et les forces de sécurité palestiniennes. Et ça, on lui reproche souvent. Et on l'accuse aussi d'inaction, de ne pas se lever suffisamment devant Israël pour la cause palestinienne. Donc, sa légitimité est en baisse.
C'est un leader assez vieillissant.
Tout à fait.
Qui n'est pas très dynamique politiquement.
Ouais.
Fait que le Fatah est un peu moribond, mais l'alternative est aussi effrayante. Mm-hmm. Puis il y a d'autres groupes terroristes, d'autres groupes violents, le djihad islamique, qui aussi attaque Israël. Donc, il y a une multiplicité d'acteurs qui ne sont pas toujours des acteurs intéressés à la démocratie. Là.
Mm-hmm. Et le Hamas est perçu comment par les Palestiniens?
Ça, c'est une question hyper délicate.
Ouais,
là.
Ouais.
Je pense qu'il y a
parce que c'est sûrement pluri-idée.
Je vais juste mettre une parenthèse devant ça.
Oui.
En ce moment, c'est un groupe terroriste qui a fait des horreurs, OK? Ça, c'est Laurence Deschamps-Laporte qui parle, puis c'est sûr que... Mais il y a beaucoup de gens en ce moment qui, dès qu'ils parlent de la situation à Gaza, se font poser la question. La première question, s'ils sont dans la bande de Gaza ou s'ils sont palestiniens ou s'ils sont d'origine arabe, est-ce que vous condamnez le Hamas comme première question? Mm-hmm. Puis, c'est sûr que la vaste majorité des civils partout dans le monde, et ça, je le crois, condamnent la violence, OK? Mm-hmm. Mais je pense que je veux juste soulever une question par rapport à... puis je dis pas que vous faites ça, là, mais j'ai juste envie d'en parler parce que j'ai entendu... Mm-hmm. Mm-hmm. On entend beaucoup cette question-là de ces temps-ci. C'est un peu comme... je me rappelle après 9/11, là, après le 11 septembre, beaucoup de mes amis, moi j'étudie aux États-Unis, beaucoup de mes amis musulmanes se faisaient dire est-ce que c'est quoi ta position par rapport au terrorisme? Juste parce qu'elles disaient, c'est mm-hmm. pas la même chose, ok? Je fais des grandes comparaisons. Mm-hmm. Elles se faisaient demander ça d'emblée, alors que, évidemment, je pense que la plupart des civils, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix, puis être en sécurité. Mais Donc, je pense que Sabrina connaît beaucoup de gens dans la bande de Gaza et pourra mieux y répondre. Mais c'est aussi une question très difficile à poser à des gens parce que c'est des gens qui sont dans une grande insécurité, qui n'ont pas de pouvoir politique autre que la Hamas, qui même s'ils détestent la Hamas, ça peut être dangereux de le dire publiquement.
Mm-hmm, oui. Mm-hmm. On n'a pas de données fiables là-dessus.
Fait que tout le
moi,
monde
je peux chialer sur François Legault avec ouais. une assez grande impunité.
Il y a une espèce d'étau politique. D'un ouais. côté, tout le monde se fait demander de le critiquer. Il n'y a pas d'alternative politique. C'est évidemment un groupe cruel et terroriste, mais d'un autre côté, c'est des gens dangereux aussi. Fait que, tu sais, il faut juste comme voir le contexte de ça. Quand on entend cette question-là, c'est compliqué aussi pour les gens qui habitent là-bas.
Oui, c'est compliqué pour eux parce que, comme tu l'as dit, Laurence, ils peuvent...
Ils contrôlent tout.
Ils peuvent pas le dire publiquement qu'ils sont en désaccord avec le Hamas parce qu'ils pourraient risquer leur vie. Et un Gazaoui avec qui je travaillais dans les dernières années, qui est sur place, avec qui je suis en contact régulièrement sur WhatsApp, dont je vais taire l'identité, évidemment, pour sa sécurité.
Tout à fait.
M'a dit, je lui ai posé un peu la question, comment tu vois ça, comment, c'est quoi ton sentiment par rapport au Hamas, puis il m'a répondu, évidemment que je déteste le Hamas, mais il me l'a dit en chuchotant, au cas où quelqu'un nous écoute, au cas où quelqu'un l'entend même dans sa propre maison, mais il dit, par contre, évidemment qu'il ne célébrait pas du tout les attaques atroces qui ont été commises par le Hamas en Israël, ça c'est évident, au plan humain, pas du tout, mais il m'a dit, pour une fois qu'un groupe se lève pour dénoncer l'occupation israélienne, dénoncer le blocus. Enfin, un groupe politique se tient debout devant Israël. Ça, je ne peux pas condamner ça. Donc, c'est un peu le sentiment. Vous voyez un petit peu la nuance où je la mets. Puis je dis que c'est délicat parce qu'on pose beaucoup cette question-là aux Gazaouis. Je l'entends souvent à la télé et tout. Je ne sais pas si c'est aux Gazaouis de répondre à cette question-là. Ils sont en ce moment dans une situation atroce, eux aussi, vivent sous les bombardements. Ils n'ont pas à justifier tout ce que le Hamas a fait, parce qu'effectivement, ça a été vendu, le Hamas aussi, comme un mouvement politique, bien qu'il y ait une branche armée et que le Canada ne fasse pas de distinction entre les deux. C'est aussi le mouvement qui gouvernait la bande de Gaza, donc la fonction publique à Gaza, ben c'était géré par le Hamas. Donc, c'est difficile pour ces gens-là parce que ça fait partie aussi de leur quotidien et de leur vie. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup ce sentiment-là chez les Palestiniens et ils ne diront pas publiquement non plus qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé avec cette attaque-là du Hamas parce qu'ils ont peur que ça ait l'air comme s'ils tournaient le dos à la cause palestinienne. Mm-hmm. Même si ce ne serait pas le cas de dénoncer les attaques du Hamas, mais il y a ce sentiment-là qui est très fort chez eux. Donc, ils vont se réserver de répondre à ce genre de questions-là.
Oui, ouais, tout à fait.
T'sais, nous, on peut le dire, c'est un groupe terroriste, c'est un groupe violent, c'est une abomination qu'un peuple ait à vivre sous ce type de régime-là. Mm-hmm. Okay? Puis après ça, on se demande qu'est-ce que la communauté internationale aurait pu faire au cours des dernières décennies pour qu'il y ait des alternatives politiques.
Évidemment.
À ça. Là, on est dans cette espèce de... on est pris dans un coin, là, où est-ce que les deux blocs politiques sont en guerre. Il y en a un qui est pas légitime, puis on a plein de civils qui sont juste mis en danger par les bombardements, parce que Hamas a fait. Fait que je pense qu'en ce moment, les civils à Gaza, ce qu'ils veulent, c'est survivre. Là.
Tout à fait.
Puis ce qu'ils vont vous répondre aussi, c'est qu'effectivement, ils sont victimes, bien sûr, du Hamas, de la façon de gouverner du Hamas, mais qu'ils sont aussi victimes de la situation et du statu quo politique. Ils sont victimes de l'occupation depuis 67 et ils sont victimes des conséquences du blocus. Là, il y a un blocus total en ce moment sur la bande de Gaza, mais il y avait déjà un blocus depuis 2007. Donc, des Palestiniens, 2,3 millions de personnes, qui peuvent difficilement vivre à Gaza en raison de toute cette situation politique-là. Donc,
le blocus, quand on parle du blocus, ouais. C'est quoi exactement, dans le fond?
Israël,
les villes sont coupées complètement?
Ben non, en fait, c'est qu'Israël contrôle tout ce qui entre et sort de la bande de Gaza, donc les biens et les personnes. Mm-hmm. Et il y a toute une liste, là, on appelle ça dual use, donc toute une liste de biens qui pourraient être utilisés, par exemple, à des fins militaires pour le Hamas, qui ne peuvent pas entrer à Gaza. Et donc, évidemment, ça étouffe économiquement la bande de Gaza et ça a des conséquences grave pour les gens aussi, parce que vous avez une population gazaoui qui est hyper jeune. Mm-hmm. Il y a la moitié des Gazaouis qui ont moins de 18 ans. Mm-hmm. Et donc, qui, par exemple, n'ont jamais voté pour le Hamas, là, je vous le rappelle, et qui, par exemple, veulent étudier dans une université américaine parce qu'ils ont une super bourse pour s'y rendre, mais pourront jamais avoir le permis pour sortir parce que tout est contrôlé. C'est la même chose du côté de l'Égypte. Ça prend aussi un permis pour sortir du côté de Rafah. Puis c'est un permis qui est difficile à obtenir.
Donc, non seulement pour un Palestinien, aller, par exemple, à Jérusalem, c'est extrêmement difficile, mais ouais, d'aller n'importe où, c'est extrêmement
n'importe
difficile.
Où, sortir tout court, hein, de cette bande de terre-là, c'est presque impossible.
Les options sont difficiles les deux côtés, mais sont beaucoup plus difficiles même à Gaza, quand c'est Jordanie.
Ah
ouais. On peut être palestinien puis avoir une deuxième nationalité, soit d'un pays du monde arabe ou du Canada. Mm-hmm. Donc, c'est pas exclusif, mais si on est que palestinien, entre parenthèses, puis qu'on est à Gaza, là, c'est la situation la plus compliquée.
Non,
puis,
c'est compliqué, là, c'est fermé. On la surnomme la prison à ciel ouvert, puis c'est pas pour rien. La Cisjordanie, vous circulez à peu près librement. Mm-hmm. Mais Gaza, pour être déjà entré, vous passez 3 checkpoints, ça vous prend des permis partout, vous marchez à travers un espèce de terminal qui s'appelle RS, qui a l'air d'un terminal d'aéroport, puis vous marchez pendant plusieurs mètres dans un truc de barbelé très, très long. Il y a toute une zone tampon aussi que vous traversez. Donc, non, c'est vraiment... Les gens sont enfermés quand même à Gaza, il faut le dire.
Pour mettre ça en perspective, sachant à quel point... C'est un espace hyper militarisé et sécurisé. Ouais. C'est aussi ça qui a choqué, surpris, surtout les citoyens d'Israël, mais aussi la communauté internationale, de savoir que le Hamas a pu passer à travers tout cette espèce de système-là de sécurité qui est étanche.
Parmi les meilleurs au monde, apparemment. Mais là, de toute évidence, cette réputation-là d'Israël d'être le maître de la sécurité, tout ça a éclaté en morceaux. Là.
C'est surtout une réputation face à son peuple. Où est-ce que c'est fragile en ce moment?
Mais parlons-en. J'allais
aller là. Est-ce qu'on a senti une escalade dans... la tension dans l'ambiance dans les derniers mois, mettons, ou
avant
c'était,
l'événement,
c'était
l'événement.
Complètement inattendu.
Remettons en situation, là, vous voulez dire sur le point de vue en Israël politiquement ou dans la bande de Gaza?
Les tensions entre Hamas et Israël, est-ce qu'il y a eu une escalade avant l'explosion?
Les guerres précédentes, on voyait toujours des événements qui montaient tranquillement, comme en 2021. Ouais. On sentait il y avait des tensions sur l'esplanade des mosquées, on sentait il y avait des
tensions à la barrière.
Exactement. Et là, on sentait que ça montait, puis on s'attendait à ce qu'il y ait une explosion, une escalade ou une guerre. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, on parle d'une attaque surprise parce qu'il n'y a pas eu ça avant. C'était plutôt calme.
Il y avait une crise politique, mais qui ne touchait pas tant la question palestinienne. À Israël, il y a eu des manifestations monstres parce que, bon, c'est combien de fois que Netanyahou a été au pouvoir? 6, 7?
Bon, ça fait...
Non, mais qui est revenu il faut connaître que s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la science politique, OK, Israël, c'est... le phénomène de science politique le plus intéressant, parce que c'est la démocratie la plus directe qui existe, OK? Peu importe les conversations que nous avons au Québec ou au Canada, il y a des conversations encore plus diversifiées, encore plus de débats à l'intérieur de l'État d'Israël, parce qu'il y a énormément de diversité politique et étant donné que c'est un système proportionnel, disons, je veux dire parfait, mais parfaitement direct, il y a une multiplicité de partis. Dès qu'on a la barre pour pouvoir être représenté au Parlement est très basse, OK? Alors, on pourrait s'imaginer, d'un certain point de vue, c'est intéressant parce que ça permet vraiment une diversité politique très, très grande. Avant que Netanyahou ait été sorti du pouvoir pendant un moment, puis il y avait une autre coalition politique qui était là avant, et c'était un petit peu la coalition que tout ce qu'il y avait en commun, c'est qu'il ne voulait pas que Netanyahou soit au pouvoir. Mm-hmm. On avait, imaginez-vous, un groupe où est-ce que le leader était avant associé au frères musulmans. Alors, un citoyen d'Israël d'origine arabe, parce qu'il y en a, des gens d'origine arabe qui sont des citoyens d'Israël, il y en a pas mal, OK, qui sont devenus des citoyens d'Israël, qui lui, idéologiquement, on l'associe aux frères musulmans, qui était dans une coalition avec un parti qui était pro-colonisation. Donc, vraiment des gens de la droite, très, très religieux, qui veulent prendre des terres en Cisjordanie pour y retourner. Donc, pour prendre des petites parties de terres dans ces territoires-là qui devraient être négociées éventuellement, mais qui ne le sont toujours pas. Alors, en attendant, ils établissent ce qu'on appelle des colonies. Ces gens-là, qu'on ne pourrait pas s'imaginer politiquement plus opposés, étaient dans une coalition ensemble. Mais c'est ça qui est complètement fascinant pour les politologues en Israël. Mais la coalition qui est revenue le plus récemment, l'année passée, c'était une coalition avec Netanyahou à sa tête, mais où est-ce qu'il y avait énormément... Mais maintenant, les coalitions, pour se former, elles ont besoin de... Souvent, ils doivent aller ramasser plein de petits partis, OK? Puis souvent, des petits partis à la marge. Et dans le cas de Netanyahou, surtout des partis à droite, pro-colonisation, très religieux, OK? Donc, dans cette nouvelle coalition-là, il y avait beaucoup de réformes qui avaient été promises par Netanyahou dans la coalition, dont ce qu'il disait des réformes du système judiciaire. Le système judiciaire, OK, d'Israël, est très indépendant. En fait, comme système politique, le modèle, OK, le blueprint est très, très intéressant. Et lui, il voulait un peu enlever de l'indépendance au système judiciaire. Alors, il y avait eu des manifestations monstres des citoyens d'Israël qui s'opposaient à ça. Alors, la trame politique de ce qui se passait en Israël, là, jusqu'au mois d'août, c'était ces manifestations-là, de toute cette diversité politique-là qui disait à Netanyahou, arrête de détruire notre système judiciaire. Puis, alors, on n'a pas vu l'escalade. C'était vraiment surprise. Et d'un autre... Il y a des gens, des observateurs d'Israël qui se disent, est-ce que c'est justement parce que le gouvernement était pris dans ce truc politique-là...
Que ça a été l'occasion.
Qu'ils ont perdu le fil un peu de ce qui se passait.
Effectivement, ça fait partie du contexte. Et du côté de la Cisjordanie, donc dans les territoires palestiniens, on parle beaucoup d'une attaque surprise du Hamas, mais il y avait quand même des tensions de plus en plus grandes depuis au moins un an et demi. Donc, des raids de l'armée israélienne dans des camps de réfugiés palestiniens de la Cisjordanie, il y en avait de plus en plus, et il y avait des morts et des Palestiniens tués par l'armée israélienne. Il y avait aussi des attaques de Palestiniens sur les forces de l'ordre israéliennes chaque jour, chaque semaine. Et ça, vraiment, ça montait, on le sentait. Mm. Il y avait un grand soutien, donc, entre autres, qui montait pour le Hamas en Cisjordanie. Et on parle beaucoup d'une attaque surprise, mais en même temps, si on va un petit peu plus loin dans le temps, là, au cours des dernières années, le Hamas perdait un peu de terrain au profit du djihad islamique à Gaza. Puis on l'a vu parce que les dernières escalades avec Israël, c'était souvent le djihad islamique qui partait le bal.
Deux groupes violents là, qui
c'est un peu le
roquettes.
Petit frère du Hamas, finalement. Ils ont les mêmes visées, les mêmes idéaux. Et donc, ils étaient souvent les instigateurs des escalades. Et il y avait de plus en plus d'appui pour le djihad islamique. Et donc, le Hamas, dans les dernières années, s'est demandé comment on va faire pour garder ces soutiens-là à Gaza. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, ils ont essayé, les dirigeants politiques du Hamas, de se positionner comme un acteur pacifique. Et là, je le mets en très, très gros guillemets, OK, on s'entend. En organisant ce qu'on appelle la marche du retour. Donc, en 2018-2019, il y a des milliers de Palestiniens qui sont allés manifester à la ligne de démarcation entre Israël et Gaza tous les vendredis pendant, ça a duré plus d'un an.
Mais c'est ça, les manifestations à la barrière, hein?
Exactement. Ça s'appelait la marche du retour, puis il y avait deux objectifs. Donc, c'était de dénoncer le blocus, mais c'était aussi de réclamer le droit au retour des réfugiés. Et quand on allait sur place, on voyait des grosses photos de Gandhi, des grosses photos de Nelson Mandela. Donc là, le Hamas, à ce moment-là, voulait se positionner comme un mouvement pacifique. En tout cas, c'était son intention.
C'était pas perçu comme ça par quiconque, mais...
C'était perçu comme ça.
De l'extérieur de Gaza.
De l'extérieur de Gaza, non. Mais à Gaza, même un peu quand même, parce que pour avoir couvert largement ces manifestations-là, il y avait très peu de violence du côté de Gaza, dans le sens où il y avait des parents, des grands-mères, des grands-pères, des enfants qui allaient manifester avec des drapeaux palestiniens. Bien sûr, il y avait des jeunes Palestiniens qui allaient lancer des pierres en direction des soldats qui, eux, étaient postés le long de la frontière. Donc, il y avait des tireurs d'élite qui tiraient à balles réelles de l'autre côté. Il y a eu quelques tentatives d'infiltration, mais c'était très mineur si on compare à l'ampleur de ce mouvement là, qui était du jamais vu quand même du côté de Gaza. Et donc, ça a duré pendant un an et il y a plusieurs Palestiniens qui ont été tués, premièrement, mais aussi handicapés parce que ça a été démontré par les ONG qu'on visait, les tireurs d'élite israéliens visaient principalement les genoux et les hanches. Donc, les gens mouraient pas. Donc, dans les bilans, c'était moins dramatique, si on veut. Mais il y a toute une génération de Palestiniens qui ont subi les conséquences de ça. Et donc, un an plus tard, les Palestiniens ont dit, un instant, ça nous a donné quoi, nous, d'aller au front comme ça, de se faire tirer dessus? Et ils ont essayé de se soulever contre le Hamas. Et le Hamas a tiré à balles réelles dans les manifestations à l'intérieur de la bande de Gaza.
Ils ont tué sur leur propre...
Sur les Palestiniens, sur leur propre peuple. Donc quand je vous dis qu'ils peuvent difficilement s'exprimer, c'est vrai aussi. Mm-hmm. Et après, ce mouvement-là est mort. Et dans les années suivantes, il n'y a eu rien d'autre qui s'est passé. Puis le djihad islamique était beaucoup plus populaire. Et bon. Et donc, dans ce contexte-là, le Hamas était aussi perçu comme un peu le gestionnaire de la bande de Gaza, qui négociait parfois avec Israël des cessez-le-feu. Et donc, je crois qu'il a ressenti le besoin, le mouvement, de changer sa casquette, d'enlever sa casquette de gestionnaire, d'interlocuteur politique avec Israël pour la casquette de mouvement de résistance, pour aller chercher davantage d'appui. Donc, tu sais, attaque surprise. Oui, parce que pourquoi maintenant, pourquoi pas il y a deux semaines, pourquoi pas dans deux mois? Mais est-ce qu'elle est surprenante? Mm-hmm. Non. Maintenant, est-ce qu'elle est inédite dans son ampleur, la coordination? Oui. Mm-hmm. Ça a surpris tout le monde, les Israéliens en premier, évidemment.
Donc, c'est ça son objectif majeur au Hamas avec cette attaque-là, c'est de réaffirmer un peu sa position par rapport à Israël, mais par rapport à son propre peuple.
Tu sais, en même temps, nous, on peut... essayer de représenter leur discours, voir comment ils se projettent, mais...
On connaît pas réellement
comme
leur
moi, intention. Je peux pas aller faire la psychoanalyse de comment on pense que c'est justifié d'égorger des enfants.
Je comprends. Mmh.
C'est-à-dire qu'on peut tout... Parce que cette analyse politique-là, moi, je la maîtrise pas parce que j'opère, tu sais, la violence politique. On peut analyser le discours à travers lequel ils essayent de la justifier. Mais après ça, on a beaucoup de limites dans notre analyse sur est-ce que ça peut atteindre, comme pourquoi aller si loin, pourquoi être si cruel.
Mais ça, on n'a pas de réponse.
Il y a aussi beaucoup de limites sur comment c'est perçu justement par la population locale. Mais parce que ce à quoi on a accès, c'est très limité, il y a beaucoup de censure, puis il y a beaucoup de propagande du Hamas.
Des deux côtés, la propagande.
Oui,
je sais,
mais sur le discours. Sur le discours du Hamas, je ne peux pas regarder d'autres choses qu'eux-mêmes. Mm-hmm. Fait que ça va. Il y a en ce moment, là, le problème de la désinformation, de la propagande, de l'accès sur ce conflit-là, c'est comme énorme.
Donc, c'est dur de dire c'était quoi leur objectif avec cette attaque-là.
Mais tu sais, on peut dire c'est quoi leurs objectifs politiques. Ils ont toujours dit qu'ils étaient en guerre, ils veulent défendre, ils disent être justement les défendeurs de la résistance, etc. Mais je veux juste pas, que ça soit perçu comme... que quoi que ce soit justifiable dans leur violence politique, il y a un discours, puis après ça, il y a tout le reste.
Évidemment qu'on ne justifie pas, en vous racontant tout le contexte, on ne justifie pas du tout la violence inouïe des attaques qui ont été commises contre les Israéliens. Là, ça, il faut que ce soit clair, parce que c'est tellement polarisé, la question en ce moment, que c'est un terrain hyper glissant. Tout ce qu'on dit peut être interprété. Donc, jamais rien ne justifie d'attaquer des civils. Dans une guerre.
Tout à fait.
Qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Rien ne justifie que des gens comme ça souffrent en ce moment, autant les Israéliens que les Palestiniens, ça c'est sûr.
Donc, tenons-nous-en au fait, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, en fait?
Bien, tôt le matin, il y a des centaines, voire des milliers, il y avait le chiffre de 4500 qui circulaient, combattants du Hamas et du djihad islamique, qui ont lancé leur attaque coordonnée, donc le matin du 7 octobre 2023. D'abord, ils ont lancé des drones pour détruire les caméras de surveillance tout au long de la bande de Gaza, là, de la quarantaine de kilomètres. Et puis ensuite, ils se sont attaqués à des bases militaires et des checkpoints, donc le checkpoint d'Erez, entre autres. Et à d'autres endroits, à 29 endroits du mur qui sépare les deux territoires. Bien, le mur, il y a des sections en béton, mais aussi des sections en double barbelé, si vous voulez. Il y a eu 29 brèches, selon ce qui a été rapporté par les médias israéliens, entre autres. Donc, ils sont entrés par là et au même moment, il y avait aussi plusieurs parapentes ou deltaplanes qui ont survolé le mur. Et du côté de la mer, il y a aussi des incursions du côté de la mer. Et donc, ils sont allés partout dans les kibbutz, les moshavs, les villes, villages du sud d'Israël.
Dans
ce qu'on appelle.
Festival qui avait eu lieu toute la nuit là-bas. Là.
Exactement, dans le désert où il y avait un festival. Donc, tout ce qui est l'enveloppe de Gaza, donc tout ce qui se trouve autour de la bande de Gaza. Et donc, ils sont allés là-bas. Ils ont attaqué donc des policiers, des militaires, mais aussi des civils, des femmes, des enfants, des hommes. Ça a duré pendant des heures. Et c'est ce qui est surprenant, c'est le manque de réaction des autorités israéliennes. Tout est tellement contrôlé, il y a tellement de surveillance. Donc ça a été une des questions, des premières questions qui a surgi, comme où vous êtes, là? Ouais. Et les gens qui se barricadaient. Puis au même moment, il y a aussi eu un barrage de roquettes en provenance de Gaza. Donc, et ils ont lancé des roquettes très, très loin dans le territoire pour faire diversion. Donc, pendant tout ce moment-là, il y avait tellement pour les autorités israéliennes de choses à gérer que c'était vraiment le chaos. Et le chaos a duré pendant 36 heures et plus avant que les autorités israéliennes ou les forces de l'ordre puissent réussir à contrôler ce qui se passait. Et donc, dans certains villages, ben, tout le monde a été massacré là. Et je vous épargne les détails. Mm-hmm. C'est des images horribles, là. Les atrocités qui ont été commises sont difficilement... on peut difficilement en parler, là. C'est, mm-hmm. Imaginez-vous le pire, ben, c'est ce qui s'est passé. Et les gens...
Ils ont pris des otages aussi.
Ils ont pris des otages, effectivement. Donc, ils ont tué 1400 Israéliens ou des binationaux et des étrangers. Et ensuite, ils ont pris en otage, et ça aussi, c'était inédit, là, entre 200 et 250 personnes qu'ils ont ramenées dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps dans le sud d'Israël.
Et ils ont réussi à juste revenir...
Non. Dans la bande de Gaza, certains sont revenus, mais plusieurs ont été tués sur le territoire. Donc, à un certain point, puis ça, c'est pas une information vérifiée, mais Israël a dit avoir retrouvé les corps de 1500 combattants du Hamas et du djihad islamique. Je sais pas si c'est un chiffre qui est exact, mais donc, les forces de l'ordre ont fini par arriver et ces gens-là ont été tués. Il y a aussi des civils qui sont armés, donc il y a certains kibbutz qui se sont défendus eux-mêmes ou qui ont essayé. Mais voilà, donc ça a pris vraiment tout le monde par surprise. Puis il y avait des gens dans leur maison qui étaient barricadés puis qui disaient « Mais où êtes-vous, là? Où est la police? Où sont nos soldats? Comment ça, on n'a pas de nouvelles et on est encore barricadés 36 heures plus tard dans nos maisons à Ashdod, Ashkelon, Sderot? » C'est des grosses villes israéliennes quand même qui sont situées très, très près de la bande de Gaza. Puis il y a certains kibbutz, dont un où moi je suis allée faire des reportages il y a quelques années, le kibbutz est collé sur le mur. C'est-à-dire que quand il y a des manifs à Gaza de l'autre côté du mur, on sent la fumée des pneus qui brûlent, on entend les gens scander des slogans. Et ce kibbutz-là a été en partie épargné parce qu'il y a des gens qui l'ont défendu, qui étaient armés, ont souvent des gardiens armés dans ces petits kibbutz-là. Et la dame que j'avais rencontrée, ben je lui ai parlé, puis je lui ai demandé, bon, avez-vous survécu? Tu sais, c'est pas drôle de devoir poser ces questions-là à des gens. On est mal de leur écrire ça, mais avez-vous survécu? Oui, OK, comment allez-vous? Là, bon, mais dans plusieurs cas, 1400 civils et policiers et militaires, tu sais, c'est quand même...
Il y a encore des petits-enfants qui sont otages dans la bande de Gaza et tout ça. Là,
ouais.
J'écoutais... une entrevue au New York Times de la famille de quelqu'un qui est à Gaza, puis elle a fait un discours à l'ONU là, hier, oui. Je pense. Là.
Et donc ça vient changer tout le rapport de force aussi du Hamas, là, d'avoir ces otages-là. Là, c'était très stratégique de faire ça. C'est une façon pour le Hamas de négocier des choses. Et c'est ce qui rend aussi beaucoup plus compliqué l'opération terrestre d'Israël dans la bande de Gaza, parce que est-ce qu'on protège les otages? Ouais. Est-ce qu'on choisit de bombarder massivement et de faire une opération terrestre qui traite à ce que nos otages soient tués dans cette opération-là? Tu sais, c'est quand même assez délicat. Donc, c'est un terrain miné là, pour les Israéliens.
Ça a été quoi, justement, après le chaos initial puis un peu la désorganisation, tout ça, ça a été quoi la réponse de l'armée israélienne puis du gouvernement israélien à ces événements-là?
Bien, immédiatement, ils ont bombardé la bande de Gaza, ça c'est sûr. Ils ont appelé à leur droit de se défendre contre le Hamas, qui qualifie de terroriste. Et donc, mais les Israéliens eux-mêmes, moi c'est ce que je trouve intéressant d'analyser, c'est que pour eux, là, c'était un... ça a été le jour le plus meurtrier depuis l'Holocauste. Donc là, on est venu toucher à un traumatisme collectif qui est vraiment important. Donc, pour les Israéliens, ça a été le premier sentiment, évidemment, la douleur. Là. Ouais. Et après la douleur, la colère contre le Hamas, bien sûr, contre aussi leur propre gouvernement qui n'a pas réussi à les défendre parce que l'État d'Israël a été créé, entre autres, pour ça. Et donc, la colère contre leur gouvernement et contre le manque de réaction devant cette opération des combattants du Hamas. Et donc, il y a ça. Et ils ont appelé à une réponse très, très forte à Gaza, à la hauteur de leur douleur, finalement. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la bande de Gaza.
Puis, peut-être que je peux... Tu sais, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à cette région-là, c'est qu'on est ici, puis on entend le discours du gouvernement israélien, puis on entend le discours moins, mais en tout cas, si on cherche des informations, on le voit, le discours du Hamas. Puis j'ai parlé de la diversité qui existe dans les opinions de plus de 2 millions de personnes dans la bande de Gaza. C'est évident, la diversité politique qui existe en Israël. Mm-hmm. Mais ce qui paraît particulièrement cruel, puis ma collègue avec qui j'anime mon balado, Laura Julie Perrault, à la presse, elle a écrit au début là, un article sur le profil d'une femme en particulier, dont j'oublie le nom, là, mais je vais vous parler un peu de cette situation-là. C'est qu'il faut comprendre que à la fondation de l'État d'Israël, puis pendant longtemps, il y a quand même eu... là, maintenant, on voit beaucoup de gouvernements de droite, mais il y avait quand même, disons, un mouvement hippie, OK, ou bien de gauche, puis des gouvernements de gauche. C'était presque la norme pendant longtemps en Israël. Tu sais, moi, j'ai... Tu sais, on parle de
quand, à peu près, cette période-là?
Ben c'était, tu sais, des années 40, là, quand ça se formait, jusqu'aux années 80, même, là.
Les accords d'Oslo, même. En 93.
Mais il y a des gens, là, que, si vous allez lire les nouvelles, puis il y en a qui se disent, tu sais, « I'm from the peace camp », puis il y a des gens qui s'identifient comme des gens qui veulent la paix avec les Palestiniens, OK? Mm-hmm. La solution à deux États, il y a du monde qui croyait fort à ça aussi en Israël, là. Puis, c'est quoi un kibbutz? C'est une commune. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans ces communes-là, qui est un peu, c'est pour ça que je dis hippie des années 70, dans ces modèles de communes-là, il y a même des activistes pacifistes, OK? Ces gens-là existent, ils ne sont pas bien représentés politiquement. Entre autres, une femme d'origine canadienne qui a été prise en otage. Et là, je m'excuse parce que son nom m'échappe, mais je vous le donnerai, puis on le mettra dans le script à quelque part. Puis, Laura Julie Perrault a écrit un article sur elle parce que ça semble particulièrement cruel, ironique, mais c'est pas si anecdotique que ça dans la cruauté de la situation qui impacte ces gens-là. C'est que cette femme-là, elle habitait entre autres dans un kibbutz près de la bande de Gaza, ce que j'en comprends parce que c'était une activiste pour la paix, qui faisait beaucoup d'actions avec la bande de Gaza. À un moment donné, il y avait eu un soldat qui avait été tenu otage par le Hamas pendant longtemps à Gaza. Elle avait même contribué à la négociation.
Gilad Shalit.
Voilà. Elle avait contribué à la négociation de ce soldat parce qu'elle avait des relations à Gaza qui étaient utiles pour l'armée israélienne. Cette femme-là a été prise en otage parce qu'elle était dans un kibbutz, parce qu'elle était là, parce qu'elle est activiste pour la paix. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que oui, le gouvernement d'Israël a dit, écoute, on va aller au plus fort, tout faire. Mais ce qu'on entend beaucoup en ce moment, puis ça me touche particulièrement, c'est des familles, des otages qui disent, pas au nom de ma mère, pas au nom de ma sœur. J'ai dit, faut pas aller tuer des civils, pas utiliser comme excuse pour le faire. Et puis moi, il y avait un entretien, entre autres, avec le fils de cette femme-là, qui donnait des entrevues, qui disait... La dernière chose que ma mère veut, là, elle est prise en otage, elle est entourée de gens qui auront été tués par le Hamas, c'est qu'il y ait des civils qui meurent à cause de ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, ce discours-là politique, il est dominant par le gouvernement, mais il y a toute cette complexité-là aussi. Oui,
tout à fait.
Est-ce que tu penses que c'est une minorité, par contre, en Israël, en ce moment, de gens qui ont ce discours-là?
Je sais pas parce que... Mais je pense que la gauche... Elle existe encore, mais c'est juste que dans les coalitions, puis je pense que ce qu'on a vu, ce qu'on a vu dans les manifestations cet été, c'est que c'est une société de contestation aussi. Il y a un ministre qui est venu faire un tour d'un hôpital après le massacre. Puis il s'est fait sortir de force de l'hôpital parce que personne ne voulait voir quelqu'un du gouvernement. Mm-hmm. Donc, moi, je veux juste qu'on s'assure que c'est beaucoup plus facile de représenter les choses blanc et noir, mais quand on s'intéresse à ces sociétés-là, il y a, tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, que ce soit des Palestiniens, des Israéliens d'origine arabe, des Arabo-Israéliens, je ne sais pas comment... Chaque personne...
Les Palestiniens d'Israël, mmh. en fait, ouais, c'est des gens qui sont restés là après 48, là.
Il y a beaucoup... Il y a encore des gens qui croient à la paix, puis tout ça, ils sont aussi horrifiés que nous que, par ce qui se passe en ce
moment. Est-ce qu'ils ont été très... vocal et entendu, les Israéliens de gauche pour la paix depuis les événements, ou plutôt ils se font...
J'entends les familles des otages, là, mm-hmm. entre autres, parce que ces gens-là ont accès aux médias, puis ils sont très médiatisés.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, c'est juste... je pense qu'il y a beaucoup de gens en Israël qui sont critiques aussi de ce qui se passe.
Ouais, moi, de ce que je perçois et j'ai perçu dans les dernières années, c'est malheureusement un délitement de la gauche israélienne, donc de moins en moins de gens qui sont à gauche. Et ça se reflète par un gouvernement de plus en plus à droite aussi. Donc, le camp de la paix est plus qu'il était. Puis c'est vrai que ces voix-là, ça prend tellement de courage pour demander à son gouvernement de ne pas bombarder Gaza en ce moment parce que c'est pas la solution à la paix, alors que ta propre mère, par exemple, est otage ou t'as perdu des amis dans ces attaque-là du Hamas, ça prend un courage énorme pour se lever et dire ça. À mon avis personnel, j'ai pas de chiffres pour vous, mais je pense que ça reste une minorité en Israël mm-hmm. quand même. Ouais. Ouais.
Juste pour la petite anecdote, en fait, là, moi, j'ai étudié la musique jazz, là. Bref. Puis, il y a beaucoup des meilleurs musiciens de jazz à New York qui sont d'origine israélienne. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais peut-être qu'ils ont un programme très fort en musique là-bas.
Ou juive, d'origine juive.
D'origine juive, ouais, c'est ça. Puis, j'en suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, après les événements, je voyais passer la réaction de certains ou j'étais curieux, en fait, de voir comment ces gens-là vont réagir. Tu sais, beaucoup des gens, justement, d'origine israélienne, mais qui habitent plus, puis qui... présumé des artistes, donc peut-être de tendance plus de gauche que d'autres, tu sais. Puis justement, beaucoup se prononçaient pas. Puis il y en a un qui s'est prononcé, puis que son, tu sais, il a juste écrit sur Instagram la paix avant tout, là, ou quelque chose comme ça, tu sais, juste comme la paix.
Je pense qu'il y a aussi la tradition de la musique klezmer. Il y a beaucoup de musique juive qui viennent des Balkans, de l'ex-Yougoslavie, de ces régions-là, qui ont beaucoup de lien avec le jazz aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il y a ça qui peut faire... Qui
sans
peut
doute, oui.
Puis la diaspora est beaucoup plus libérale aussi aux États-Unis, notamment à New York, là. Donc...
sans doute pas.
Ouais.
Mais bref, tout ça pour dire que sous ce post-là qui semble-t-il, tu sais, je veux dire, qui paraît comme une position non controversée de juste vouloir la paix, tu sais.
Ouais.
Puis évidemment, il y avait beaucoup de commentaires qui applaudissaient puis qui saluaient ce prise de position-là, mais il y avait aussi beaucoup de commentaires. Puis en faisant mes petites... En avoir, c'est qui était d'ailleurs d'autres Israéliens qui disaient c'est dangereux de dire ça, puis c'est pas le temps de faire ce genre de prise de position-là quand que tout ce qu'ils demandaient, puis tout ce qu'ils souhaitaient, c'est la paix. Quand la paix est devenue une position controversée ou dangereuse, entre guillemets, on a un problème.
Ben oui, tout à fait, mais c'est que les gens sont hyper polarisés un peu. Ouais. Comme je le disais, j'ai l'impression que moi, autant les Israéliens que les Palestiniens sont touchés dans leur traumatisme le plus profond. Mm-hmm. Tout le monde est campé sur ses positions et maintenant, même les gens qui sont pro-palestiniens, par exemple, n'osent pas le dire parce qu'on associe pro-palestiniens à Hamas, alors que c'est un amalgame qui est hyper dangereux.
Mais même ce terme pro-palestinien, c'est-à-dire que...
Camps, oui, tout à fait. Mais donc, c'est un amalgame qui est dangereux parce que le Hamas n'égale pas la bande de Gaza non plus. Il faut arrêter de faire ces amalgames-là. Puis on vient à déshumaniser les 2 300 000 Palestiniens, dont la moitié d'enfants qui vivent à Gaza. Mm-hmm. Parce qu'on dit, on sous-entend qu'ils sont tous terroristes et qu'ils ont tous des accointances avec le Hamas. Donc, c'est hyper sensible.
J'ai beaucoup de gens aussi dans mon entourage qui ont voulu justement se prononcer sur les réseaux sociaux, partager de l'information, partager des pétitions, partager des levées de fonds, tout ça. Puis plusieurs m'ont dit, tu sais, je fais quelque chose, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, tu devrais pas partager ça, soit c'est pas une information fiable, ou soit t'es, ça veut dire que tu supportes tel groupe ou tel groupe. On dirait que tout le monde marche sur des œufs dans cette situation-là. C'est difficile.
On a comme deux guerres en même temps, là. On a la guerre sur le terrain des gens qui la vivent, puis on est en train de vivre, après l'Ukraine, probablement la deuxième guerre la plus médiatisée qui a lieu en même temps sur des réseaux sociaux. Mm-hmm. Puis je dis pas qu'il faut pas utiliser les réseaux sociaux, tu sais, comme si tout le monde peut s'exprimer, a besoin de s'exprimer. Mais il y a plein de dynamiques qui se passent en parallèle. Il y a comme une guerre des médias, des journalistes qui meurent, OK? Ça, c'est extrêmement grave dans cette guerre-là. Il y a plein de gens, les journalistes internationaux n'ont pas accès à Gaza, alors on sait pas les sources d'information, les gens se mettent à risque, tu sais. La famille, je pense, d'un reporter d'Al Jazeera a été complètement tué hier. Ouais. Le nombre de journalistes tués à ce jour-là, c'est effrayant. Alors, il y a ça. Ensuite, puis, on sait très bien tous les problèmes avec nos médias sociaux, d'algorithmes, de toxicité, de bots, de désinformation. Mm-hmm. Fait que là, on est en train de faire deux trucs en parallèle. Donc, c'est sûr que tout ce qui est polarisant devient... devient complètement nourri, devient encore plus polarisé par les médias sociaux. Alors là, ben, comme on n'est pas servi par les médias sociaux dans ce cas-là, puis je dis pas, il y a rien d'autre à faire. C'est sûr que les, tu sais, des gens là comme nous, qu'on peut pas attendre que toutes sortes dans les médias pour voir ce qui se passe. On a envie de voir les histoires des gens, puis il y a juste les médias sociaux qui existent pour ça, à part les liens personnels. Mais on est aussi dans une espèce de course contre la montre où est-ce que le New York Times essaye d'être aussi vite que Twitter, fait qu'ils font des mises à jour à toutes les 6 minutes. Mm-hmm. Fait qu'on est vraiment dans cette espèce d'hyper-médiatisation-là de la guerre. Puis comme des fois, on peut tomber dans un trou en ligne, puis c'est difficile d'en sortir. Puis on ne sait pas pourquoi on se fait servir certains contenus.
Avant de parler de la riposte israélienne, puis... jusqu'à où est-ce qu'on en est maintenant. Là. Netanyahou, c'est qui, lui? Puis de...
Qu'est-ce qu'il veut?
D'où il vient? Non, mais faisons le même exercice qu'on a fait tantôt pour le Hamas, pour bien comprendre le gouvernement israélien. C'est qui, lui? Puis on a parlé un petit peu des coalitions tout à l'heure, là, mais d'où il vient? C'est quoi son background? Puis la même question, peut-être un petit peu touché que tantôt, c'est quoi la perception des Israéliens, aussi plurielle peut-elle être, de leur premier ministre?
La politologue?
Non, on l'appelle Bibi.
On l'appelle Bibi, même en Israël, parce qu'il est au pouvoir depuis... là, j'ai pas les dates en tête, mais depuis tellement longtemps... Il avait perdu...
Mais mettons, sans les dates exactes, on parle-tu de 20 ans?
Plus d'une décennie, élu, réélu. C'est un as de la politique. Il est en politique pour les Likoud depuis des années. Et il est extrêmement intelligent, capable de naviguer là-dedans, parle un excellent anglais, a beaucoup de contacts côté américain. Il a étudié, je pense, aux États-Unis. Et donc, il a perdu les élections il y a quelques années, avant de revenir au pouvoir, mais c'est surtout un homme politique qui s'accroche au pouvoir et qui est prêt à tout pour le garder. Et lors des dernières élections, pour pouvoir gouverner le pays, il y a, comme Laurence l'expliquait, il y a tout ce système proportionnel en Israël. Donc, il n'a pas eu le choix de s'allier, même si c'était peut-être pas son premier choix, mais à des partis d'extrême droite et des partis ultra-religieux, des partis très sionistes aussi, pour rester au pouvoir.
Donc, c'est sa base, finalement.
Sa base, c'est la droite, mais il y a du s'allier avec l'extrême droite.
Pour rester au pouvoir, pour pouvoir gouverner. Mm-hmm. Et donc, il était critiqué. En fait, il est en procès pour corruption, abus de confiance et tout ça. Des histoires avec des médias israéliens, des pots de vin, exactement. Et des riches hommes d'affaires. Mm. Et donc, il est en danger. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle il essaie de changer le système judiciaire. Il veut avoir plus de pouvoir, que la Cour suprême en ait moins. Mm. Et donc, il était très fragilisé.
Ça rappelle une histoire, il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, on dirait.
Tout à fait. Et donc, là, il était très fragilisé dans les derniers mois parce qu'il y avait ces manifestations contre la réforme du système judiciaire. Mm-hmm. On le critiquait beaucoup. Et c'est monsieur, on l'appelle aussi Monsieur Sécurité, là, en Israël, parce que il y avait ce discours... sécuritaire très fort, mais en même temps, Bibi voulait jamais entrer en guerre, voulait jamais aller en guerre parce que ça peut être à double tranchant, mener une guerre, soit politiquement, vous allez pouvoir récolter plein d'appui, mais si ça se passe mal, puis que vous avez beaucoup de pertes humaines côté des soldats israéliens, par exemple, ça peut aussi vous coûter cher politiquement. Donc voilà le genre de personnage qu'on a qui est au pouvoir aujourd'hui, qui va devoir répondre à pas mal de questions dans les prochaines semaines, les prochains mois peut-être, sur comment c'est possible de l'avoir échappé à ce point-là le 7 octobre dernier. Il va avoir bien sûr une enquête, puis il va devoir répondre de ça. Puis on se demande, est-ce que Bibi va survivre politiquement à cette histoire?
Quelqu'un qui se fait appeler Monsieur Sécurité...
Ouais.
C'est pas très sécuritaire.
Ben, c'est un échec cuisant, ça, c'est certain, pour la classe politique, mais aussi pour tout l'appareil sécuritaire israélien.
Mm-hmm. Il faut comprendre qu'en Israël, l'armée, le service militaire joue un rôle extrêmement important parce que c'est obligatoire de faire un service militaire, pour les femmes aussi. Il y a une industrie de la technologie très, très avancée qui, un peu comme l'invention de l'Internet aux États-Unis, est toujours liée au secteur de la sécurité, à l'État militaire, si on veut. C'est très rare là, que des grandes technologies ont été développées dans l'histoire, que ce soit le GPS, Internet, etc., sans un lien souvent à tout le financement qui vient du système militaire. Donc, le système militaire israélien est une institution très, très, très importante pour l'État d'Israël. Oui, très, très importante pour Netanyahou aussi, mais aussi économiquement, emploie énormément de monde parce que beaucoup de ce qu'on appelle le Silicon Valley israélien ont des liens très, très forts avec tout ce qui est militaire, ou c'est des anciens militaires qui ont fait carrière puis qui après sont allés dans le secteur privé.
Puis quelle est j'imagine qu'il est aussi diverse, encore une fois, la perception internationale de Bibi? Y a-t-il des bonnes relations politiques?
Ce qui est intéressant, c'est que un peu comme les grands leaders de ce monde qui jouent de main forte, là, il est capable de faire des rencontres, que ce soit avec des... je pense qu'il y avait eu des rencontres bilatérales récemment avec la Turquie ou avec l'Inde, avec des pays qui n'ont pas toujours été soutenu ou politiquement avec Israël, mais tu sais, c'est un gars qui est capable de faire des deals, OK? Puis je veux dire, il n'est pas vraiment dans le discours du multilatéralisme tout le temps. Mm-hmm. Puis évidemment, tu sais, il y a vraiment... Tu sais, un pays comme le Canada, on est des alliés très importants d'Israël, mais en même temps, Netanyahou, il a été capable, puis ça, c'était très, très visible avec Obama. Il va avoir un discours, même si, par exemple, Israël dépend énormément du soutien américain. Il peut avoir un discours très dur à l'endroit des leaders politiques comme Obama, par exemple. Il l'a un peu envers Biden, mais c'était très, très dur envers Obama, envers les démocrates en particulier, parce qu'ils n'aiment pas se faire dire quoi faire. Mm-hmm. Et puis souvent, les démocrates aux États-Unis, par rapport aux républicains, ont dit plutôt « fais attention à la colonisation, le droit international ». Ça énerve Netanyahou. Fait qu'il va le dire très publiquement, des choses dures par rapport aux leaders américains. Puis ça contribue à son jeu politique envers la population israélienne, où est-ce qu'il a l'air de se tenir debout pour, même si on est un petit pays, on est capable de leur dire de nous laisser faire, tu sais.
Mm-hmm. Ben, ils ont besoin de Benjamin Netanyahou, de toute façon, les pays occidentaux, pour notamment les États-Unis, pour asseoir leur place au Moyen-Orient. Je veux dire, Israël, c'est une base extraordinaire pour les États-Unis. Donc, ils ont besoin de collaborer, de toute façon, avec Israël pour des raisons stratégiques, sécuritaires,
c'est pas toujours une relation facile. Hein?
Non. Mm-hmm.
C'est des alliés proches, mais des fois, dans les personnalités, il peut y avoir des tensions.
Mm. Mais tu dis asseoir leur place au Moyen-Orient, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi l'avantage des États-Unis de cette alliance-là le plus...
Je pense que le monde occidental ressent, tu sais, que ce soit l'Europe ou le Canada ou les États-Unis, ressentent une responsabilité grande par rapport à Israël. Puis ça, mm-hmm. tu sais, il faut le comprendre parce qu'il y a aussi, tu sais, il y a aussi une honte qui est reliée à l'Holocauste, OK? Ouais. Puis une honte qui est bien placée historiquement, OK? Mm-hmm. C'est que dans ces sociétés-là, puis même si, tu sais, le Canada, on n'était pas l'Allemagne, là, on était de l'autre côté, ouais. Mais quand même, il y a des bateaux remplis de réfugiés juifs qui sont arrivés aux frontières et qu'on a renvoyés. Et ces gens-là ont été renvoyés dans des camps de concentration. Mmh. Fait que c'est un peu dans l'histoire, on a... tu sais, il y a une responsabilité collective d'avoir laissé faire l'Holocauste. Puis, dans la construction du système international d'après Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, c'était la première grande question du système multilatéral, si on veut. C'est-à-dire que c'était qu'est-ce qu'on fait après l'Holocauste? Tu sais, tout ce qui est la construction du multilatéralisme, des cours internationales, ça, c'était beaucoup autour de cette question-là. C'est pas étonnant. Tu sais, on se demande des fois, c'est quoi UNRWA, cette agence pour les réfugiés palestiniens? Pourquoi ils vont pas à l'agence des réfugiés normale comme tout le monde? Ben, c'est parce que la première agence pour réfugiés qui existe, c'était une agence pour palestiniens. Il n'y avait pas de système pour les réfugiés. C'était comme la première crise de réfugiés qui était traité comme problème, si on veut, que le nouveau système de l'ONU se disait « qu'est-ce qu'on fait? » Fait qu'ils ont créé une agence juste pour ça. Puis évidemment, ce qu'on crée pendant 2 minutes reste pendant 100 ans, là, mais c'est-à-dire que, pas 100 ans, mais UNRWA existe encore. Puis si on a été réfugiés palestiniens au Liban, notre école, là, est gérée encore par UNRWA. Après, même si on est né au Liban, puis ma mère est née au Liban. Alors, ce système-là, c'est comme rester en place. Mais il faut comprendre que la question de la création de l'État d'Israël, elle est très importante pour ces pays-là qui ont dû dire « Oh my God, on a laissé tous ces gens-là se faire tuer. Qu'est-ce qu'on fait? » Il faut... Tu sais, il y a quand même une responsabilité. Puis c'est une des raisons pour laquelle, évidemment, le Canada était un des premiers pays à reconnaître l'État d'Israël, parce qu'il y a une responsabilité envers la communauté juive de ceux qui ont survécu. Évidemment, ça a été fait de manière entremêlée avec plein de restes de colonisation au Moyen-Orient, dans cette région-là, qui était très forte, qui avait des mandats qui ça a été fait de manière très, très maladroite pour les Palestiniens qui ont été déplacés, etc. Mais il faut comprendre aussi, comme psychologiquement, politiquement, comment les pays occidentaux ont développé cette relation-là avec Israël aussi. C'est pas pour rien.
Je me demande bien quelle responsabilité collective on aura peut-être dans 10, 15, 20 ans, 30 ans par rapport aux Palestiniens, dans le sens où il y a quand même eu un statu quo depuis des années, on pourrait dire depuis plus de 30 ans si on se réfère aux accords d'Oslo de 93, mais quand même, les Palestiniens paient le prix de ce jeu politique-là aujourd'hui. Je me demande comment on va regarder l'histoire dans quelques années, quand on va prendre un petit peu de recul, puis on va se dire, OK, il y a plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, qui ont donné tout un feu vert au début de cette guerre-là. Bien, je voudrais pas dire qu'ils ont participé directement, mais qui ont donné le feu vert à Israël à une campagne de bombardement massif.
Là, on parle de cette année-là.
Je parle de maintenant, de cette guerre-là. Quel rôle on aura joué la communauté internationale qui aura très peu retenu, si on veut, la colère des Israéliens? Parce qu'au départ, évidemment, on a condamné fermement et avec raison les attaques du Hamas, mais on n'a pas appelé à la retenue. Ça a pris quelques jours et les premiers appels à la retenue ont été mous, très, très mous, autant du Canada que d'autres pays de l'Occident.
Là, on commence à parler d'une pause et non d'un cessez-le-feu.
Il y a tout un débat sémantique là-dessus. Mm-hmm. Pause, trêve, cessez-le-feu, c'est de la communication politique, mais ultimement, il faut qu'il se passe quelque chose. Là.
Ouais.
Parce qu'en ce moment, les Palestiniens, ce qu'ils disent, et ce n'est pas un terme que j'endosse, mais je vous partage le discours des Palestiniens, c'est de dire, ben là, nous, en ce moment, on vit un génocide, là, dans le sens où les civils sont visés de façon indiscriminée. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des milliers de personnes qui meurent, puis il y en a plein d'autres sous les décombres. Donc, juste la question que je me pose, dans quelques années, comment on va regarder l'histoire avec un peu de recul?
Je pense qu'on va avoir de toutes parts honte de ce qui s'est passé.
La façon dont c'était géré.
Puis à chaque jour, c'est ça, le discours politique change.
Ouais.
Ça a été quoi la suite des événements? Là? Mettons qu'on veut faire une genre de chronologie après les attaques initiales. Puis dans la... Tu sais, il y a eu plusieurs événements. À un moment donné, le gouvernement israélien a dit... Il faut que 2,3 millions de Gazaouis se déplacent. Tu sais, ça a été quoi, en fait, là, tu sais, de ces événements-là jusqu'à aujourd'hui, espèce de timeline.
Ben, rapidement, on a bombardé donc la bande de Gaza pour officiellement éradiquer le Hamas, donc détruire les infrastructures du Hamas, c'est-à-dire les tunnels, les dépôts d'armes, les tuer aussi les leaders du Hamas. Donc ça, c'était pour cette raison-là officiellement. Évidemment qu'il y a des civils qui vivent à Gaza qui sont morts, qui ont été tués par ces bombes-là. Et rapidement, Israël a déployé des tanks, des soldats israéliens tout le long de la frontière avec Gaza. C'est pas une frontière, mais la ligne de démarcation avec Gaza. Donc ça a été fait et il y a eu sur le terrain des incursions terrestres tranquillement. On en a fait il y a déjà presque 2 semaines. On en a fait une encore ce matin au moment où on se parle. Bon, on va essayer de recueillir des indices sur les otages. Il y a des négociations qui sont en cours. Donc c'est ce qui s'est passé dans les jours suivants. Mais Israël devait aussi surveiller un autre front. Il n'y avait pas que le front avec Gaza qui était problématique, là, si je peux dire, mais il y avait aussi le front avec le Liban, avec le Hezbollah libanais, et il y a aussi toute la Cisjordanie qui bouillonne en ce moment.
Toutes les frontières d'Israël, tu sais, c'est pour ça qu'ils parlent en front, parce qu'il y a déjà eu des guerres avec Israël. Tu sais, Hezbollah est fort au Liban, mais est fort dans le sud, proche de la frontière.
Ouais.
L'autre frontière, à part la Cisjordanie, c'est avec la Syrie. OK, fait qu'il faut comprendre cette idée de front-là, c'est que c'est compliqué sur à part la mer, là, c'est compliqué partout.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu des négociations pour la libération d'otages qui se passent en coulisses. Il y en a 4 qui ont été libérés. Les autres sont toujours dans la bande de Gaza. On a imposé un blocus total. Donc, le blocus existait déjà. Il n'était pas total. Maintenant, il est total. On a négocié ensuite des couloirs humanitaires ou une ouverture de Rafah pour laisser passer des camions de nourriture, médicaments et d'eau. Et pendant ce temps-là, les tirs de roquettes en provenance de Gaza sur Israël se sont poursuivis et les bombardements israéliens aussi se sont poursuivis. Et dans les derniers jours, on a commencé à voir des camions entrer dans la bande de Gaza, mais vraiment au compte-gouttes. Là, on parle de 15-20 camions par jour. Il en faudrait 100 au moins pour répondre aux besoins de la population. Et comme tu l'as dit, il y a eu une demande de l'armée israélienne pas mal au début de cette guerre-là. Donc, on a demandé à 1,4 million de Palestiniens de quitter le nord de la bande de Gaza vers le sud. Donc, tout ce qui est au nord de Wadi Gaza, qui est un petit cours d'eau, là, on leur a demandé de quitter vers le sud. Et ce qui nous laissait croire une opération terrestre imminente. On dit qu'elle est imminente depuis plus d'une semaine, 2 semaines, là. Donc, mais ça reste, en tout cas, dans le discours politique, une volonté d'Israël d'entrer dans la bande de Gaza pour détruire le Hamas. Donc, ces gens-là qui ont quitté, pas tous, hein, il y en a une partie de ces gens-là qui ont quitté vers le sud. D'autres ont choisi de rester, même s'il y avait des bombardements très intenses au nord de la bande de Gaza, en disant, ben moi, d'une part, j'ai nulle part où aller. Je peux pas quitter mon quartier parce que les routes autour sont bombardées, il y a encore des bombardements, c'est dangereux. Et l'autre chose qu'on a souvent entendue, c'est si je quitte, je ne pourrai jamais revenir. Donc, on a peur de cet exil comme en 1948. Donc, il y a des gens qui sont restés sur place. Et ensuite...
Oui, ben c'est ça. Il y a aussi des gens qui ne savaient pas où aller pour être
exactement.
En sécurité.
Il y a nulle part dans la bande de Gaza où on peut être en sécurité. Parce que même les endroits « sûrs », entre guillemets, donc le sud de la bande de Gaza, où Israël a demandé aux Palestiniens de se rendre, ça a été bombardé aussi à ces endroits-là. Donc, il y a eu beaucoup de bombardements, beaucoup de morts. Et donc, ben là, la situation, écoutez, ça fait 20 jours depuis le début de la guerre aujourd'hui et la situation humanitaire, elle est catastrophique, là. Il y a le tiers des hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner. Il y a plus d'eau potable ou presque plus d'eau potable à Gaza. Peu de nourriture, pas d'électricité. Comment on fait fonctionner un hôpital dans ce temps-là? Comment on fait fonctionner une salle d'opération sans eau potable? Donc là, en ce moment, il y a des médecins qui utilisent du vinaigre pour désinfecter des plaies ou de l'eau contaminée, ce qui est hyper dangereux. Pas d'électricité, donc, et pas de carburant. Donc, on peut pas faire rouler les générateurs pour avoir de l'électricité. Il y a des nouveaux-nés dans des incubateurs dont la vie est en danger en ce moment. Ça, ce sont quelques exemples, mais imaginez une vie normale sans électricité, sans carburant, sans nourriture, sans eau potable. C'est extrêmement difficile. Là.
Difficile d'imaginer une
difficile
vie normale.
De vivre. Mais c'est difficile de vivre, en fait. Non, puis il y a des quartiers complets de Gaza qui ont été réduits en cendres. C'est pas en cendres, mais c'est des amas de béton. Simplement, on le voit sur les images satellites, il n'y a plus rien. Donc, des quartiers entiers qui ont été bombardés, détruits. Donc, des gens qui ont perdu leur maison, j'avais les chiffres, là, mais c'est des proportions incroyables. C'est 40-45 % des unités d'habitation à Gaza qui ont été détruites. Et ça fait seulement 20 jours que la guerre a commencé. Donc, ce que les Palestiniens craignent en ce moment, c'est de quitter vers le sud la bande de Gaza, qu'Israël occupe une partie de la bande de Gaza et que la situation devienne tellement intenable qu'on finisse par ouvrir Rafah, donc la frontière avec l'Égypte, pour que les gens puissent se réfugier dans le Sinaï et qu'éventuellement Israël prenne leur territoire. Donc, c'est ce qu'ils craignent le plus. Évidemment, il y a les bombes, la première préoccupation, et ils craignent de perdre leur territoire. Mais tu sais, il y a eu d'autres guerres avant. Moi, j'ai parlé à plein de gens à Gaza qui m'ont dit... D'habitude, ce qu'ils nous disent, les gens de Gaza, c'est... On est habitué, on va passer au travers, on est capable, ça va aller. Puis c'est presque qui nous rassure là, sur WhatsApp. Mais cette fois-ci, c'est pas ça du tout. On a des commentaires où moi j'ai des messages dans le genre I have no word, donc j'ai pas de mots. Don't forget me, ne m'oublie pas. Les gens sont désespérés parce que c'est la guerre la plus meurtrière et la plus destructrice depuis déjà longtemps, depuis 2007 en fait. Donc c'est du jamais vu et les Gazaouis sont vraiment en détresse en ce moment-là. C'est peu dire. J'ai pas de mots assez forts, en fait, pour décrire ce qu'ils vivent.
Est-ce qu'on a un bilan aujourd'hui des morts, des blessés? Puis est-ce que ce bilan-là, il est fiable, en fait?
C'est plus de 7 000 morts, plus de 17 000 blessés. À ta question, est-ce que c'est un bilan qui est fiable? C'est selon le ministère de la Santé de Gaza. Donc, par exemple, le président américain Joe Biden a remis en question ce bilan-là hier. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on remettrait en question ce bilan-là. Les secouristes les voient, les morts passés dans les hôpitaux et tout ça. J'ai pas de misère à croire qu'il y a autant de morts que ça à voir les images. Il y a aussi plus...
De toute façon, il y en a beaucoup, tu sais, que je veux dire...
Ils sont pas confirmés,
mais le problème,
sont disparus.
Oui, mais c'est ça, il y a plus d'un millier de personnes, puis ça, c'est très conservateur comme chiffre de gens qui sont pris en ce moment sous les décombres. Et il y a 60 % des morts qui sont soit des femmes ou des enfants. Donc, ça vous donne un peu le portrait.
La bande de Gaza, elle est très jeune, hein? Il y a beaucoup, tu sais, je veux dire, même le Moyen-Orient en général, mais... Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'ados.
Donc, puis tu sais, je trouve ça dommage parce que quand on parle de Gaza, on parle en termes de chiffres. On parle pas en termes d'histoire. Tu sais, c'est des statistiques. On a 7 000 morts. 7 000 personnes qui ont été tuées dans des bombardements, par exemple. Mais ces 7 000 personnes-là, ce sont des mères de famille, des pères de famille, c'est des gens comme vous et moi, des employés d'ONG, des journalistes, des médecins, des... Donc, C'est des chiffres qui sont hors normes. Et ça va bien sûr s'alourdir dans les prochains jours. Là.
À partir de quand... Puis je pose une question, mais je me doute que vous ne pourrez pas répondre à ça. Mais tu sais, à partir de combien de civils, combien d'innocents tués, on commence à parler d'un crime de guerre?
Mais tu sais, un crime de... Je pense que...
C'est pas une question de chiffres, hein. D'abord, c'est...
Je veux dire, tout ça, peu importe si le chiffre était plus élevé, moins élevé, personne devrait être pris dans cet étau politique-là, être pris comme une souris, là, qu'on peut rien faire, qu'on peut pas sortir. Puis même cette idée-là, là, même s'ils perdaient... Tu sais, la plupart des gens à Gaza, c'est des déplacés. Ils viennent pas de Gaza, d'origine de leur famille.
À 80 %, ce sont des réfugiés.
C'est déjà la conséquence d'autres crises.
Ouais.
Mais tu sais, disons là, que... Alors ça, tout ça, c'est très grave. Puis j'espère que le système international va avoir les outils pour dealer avec. Mais avant même qu'on arrive là, j'espère que ça va juste arrêter. Là.
Ouais.
Parce que c'est ça la chose la plus urgente pour que l'aide humanitaire rentre, pour que les journalistes arrêtent de se faire tuer, pour qu'on comprenne au moins ce qui s'est passé puis que ça arrête. Alors c'est ça la chose la plus urgente. Puis il faut comprendre, malheureusement, c'est que... T'sais, les Palestiniens, il y a eu longtemps une espèce de discours politique de soutien, au moins du moins sur le plan du Moyen-Orient, mais ils n'ont pas vraiment de soutien pour vrai. Là. C'est-à-dire que, disons que même dans le pire des cas qui passerait par la frontière de Rafah pour aller dans le Sinaï, le Sinaï, OK, on s'entend, c'est un désert. OK? Oui, c'est entouré par la mer, mais c'est un désert. Qu'est-ce que tu fais dans le désert? T'es pas plus...
Rien à faire.
Il y a une espèce de... Tu sais, pour avoir vécu en Égypte, pour avoir vécu en Syrie, pour avoir passé beaucoup de temps au Liban, ben, je suis aussi allée en Cisjordanie, tout ça, mais à l'extérieur des... dans les pays limitrophes, malheureusement, quand t'es palestinien, il y a une méfiance.
OK.
T'es-tu associé à un... Alors, il n'y a pas de vraie solidarité.
Il
n'y
a nulle part où aller pour ces gens-là.
Il y a même un caricaturiste qui a fait sa carrière là-dessus, OK? Najd Al-Ali, je pense qu'il s'appelle. Il y a une espèce, des fois, si vous vous promenez au Moyen-Orient, vous allez voir une caricature que c'est un petit bonhomme aux mains croisées, puis tu le vois de dos. Mm-hmm. Et ça symbolise l'hypocrisie du peuple arabe par rapport à la cause palestinienne. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout le monde, dans les discours politiques pendant longtemps, tous les leaders du monde arabe, soi-disant, on dit monde arabe, mais disons les pays arabophones du Moyen-Orient, okay, ont utilisé la cause palestinienne pour rallier, pour dénoncer, mais en fait, faisaient très peu. Puis je dis pas que les pays occidentaux étaient mieux, OK? Je dis rien, mais c'est juste si on s'imagine que où est-ce qu'ils peuvent aller pour survivre? Nulle part, parce non. que même dans ces pays-là, ils acceptent plus, ils veulent plus de réfugiés parce qu'ils se disent « Ah, vous allez être encore là dans des générations, etc. » Peut-être que le seul endroit où est-ce que la dynamique est un peu différente politiquement, c'est la Jordanie, parce que le roi de Jordanie, bon, il s'est marié à une Palestinienne, ils ont plus de droits de citoyenneté, c'est loin d'être parfait, mais les Palestiniens qui sont jordaniens peuvent un peu avoir cette identité un peu double et vivre une vie normale, mais dans beaucoup d'endroits, on parle de camps qui existent encore, qui sont devenus maintenant des tours d'appartements en ciment, OK? Où est-ce que les gens n'ont pas les mêmes droits que le reste de la population? Où est-ce qu'ils sont indiqués dans des écoles d'UNRWA, de l'ONU? Donc, tu sais, ils sont isolés dans leur territoire, mais ils sont isolés dans la région aussi. Donc, c'est assez déprimant.
De toute façon, ces gens-là, je veux dire, même s'ils vivent un calvaire, ça reste leur mère patrie, leur territoire. Je veux dire, tu sais, ces gens-là n'ont pas nécessairement envie juste d'abandonner ce territoire-là.
Non, c'est ça, mais c'est juste pour dire que les options, elles sont exact. Extrêmement limitées.
Oui, puis ils ont un attachement à la terre qui est viscéral. Tu sais, nous, comme Québécois, Canadiens, on a peut-être moins... on n'a jamais eu à se battre, en fait, pour rester ici. Eux, ils ont eu à le faire. Puis lors de la création de l'État d'Israël, il y avait des gens qui vivaient déjà sur le territoire. Mm-hmm. Donc...
qui ont été déplacés aussi.
Qui ont été déplacés. Donc, à Gaza, en Cisjordanie, dans les pays dont parlait... Laurence. Donc, l'attachement à la terre est viscéral et comme tu l'as dit, ils ont nulle part d'autre où aller. Donc, ils veulent rester chez eux, en fait. Mm-hmm. Ils voudraient un pays. C'est ce qu'ils réclament depuis la création de l'État d'Israël, un État indépendant palestinien. Mais plus le temps passe, moins c'est possible. Mm-hmm. C'est aujourd'hui, moi, ça me fait un peu sourire quand j'entends des hommes politiques dire donc, oui, faut un cessez-le-feu ou en tout cas une trêve humanitaire et je prône la solution à deux États. C'est pas très réaliste.
Ouais. Parce que pendant longtemps, il y en a eu des négociations, okay, avec certaines conditions qui pourraient permettre un État palestinien qui vive côte à côte avec un État israélien en paix. Certaines de ces conditions, entre autres celles sur les frontières, deviennent très, très compliquées parce que sans négociation directe qui aboutisse, personne ne va être touché aux frontières. Mais on a parlé de la colonisation. Plutôt, on parle aussi de l'accès sécuritaire en Cisjordanie par Israël qui vient faire la patrouille, la police, qui rentre dans la maison des gens, sauf dans quelques villes discrètes et rares comme Nablus ou Hébron. Mm. Et même là, mais ouais. Tu sais, alors cette solution-là, disons qu'elle a été elle a eu une mort programmée. Parce que même si on imagine, on est très idéaliste pendant un moment, qu'il va y avoir une table de négociation, comment tu négocies des frontières alors que tu as un peu de monde partout, puis...
La Cisjordanie est morcelée, hein? Ça a l'air d'un gruyère. C'est-à-dire que depuis les accords d'Oslo, ben pendant les accords d'Oslo, on a divisé le territoire. Donc, toutes les...
C'est dans la fin des années 90.
Ouais, exactement. Et donc, ben les accords d'Oslo 93-95, donc... On a pris les villes palestiniennes. Donc, par exemple, Ramallah, Naplouse, Bethléem, tout ça, c'est la zone A. Et donc, ça, c'est contrôlé à 100 % par l'autorité palestinienne, autant les affaires civiles que sécuritaires. Autour de ces petites îles-là, si vous voulez, il y a la zone B. Donc là, c'est partagé entre l'armée israélienne pour les affaires sécuritaires, mais pour les affaires civiles, c'est l'autorité palestinienne. Et tout le reste de la Cisjordanie, c'est zone C, c'est 100 % contrôlé par l'armée israélienne. Donc, comment on peut avoir un État palestinien sur ce territoire-là? Est-ce que les colons israéliens, qui sont au nombre de 650 000 maintenant, en incluant Jérusalem-Est, accepteraient de vivre dans un État palestinien?
Jérusalem devait être une ville qui serait négociée avec un statut international spécial parce que religieusement, elle est tellement importante pour tellement de monde.
Ouais.
Il devait y avoir des négociations spécifiquement sur le statut de Jérusalem comme tel.
Ouais.
Mm-hmm. Si cette avenue-là, est, on peut difficilement l'imaginer, qu'est-ce que... Évidemment que, tu sais, de tout ce qu'on dit depuis tantôt, on souhaite un cessez-le-feu de toutes parts, là. Qu'est-ce qu'Israël peut faire pour s'assurer de plus avoir des attaques comme celles qui ont vécu? Parce que là, je comprends absolument que la réplique est absolument atroce puis qu'il faut que ça se termine. Une fois terminé, c'est quoi la piste de solution pour que ça réarrive pas?
Ouais, non, mais c'est extrêmement difficile parce que qu'on parle de la fin des attaques ou qu'on parle de négociation de paix, d'une solution politique qui donne des droits à tout le monde, puis de coexister, tout ça, si ça se passe dans ma vie, je vais être une personne absolument heureuse, là.
Ouais.
Mais...
Surtout après des événements comme ça, c'est comment coexister après ça?
Ce qu'ils essaient de faire, leur stratégie, c'est d'éradiquer le Hamas.
Ouais. Ouais.
Mais la question, c'est aussi, est-ce que c'est possible de l'éradiquer?
C'est ça
la question.
Bon, oui, les infrastructures, oui, on peut assassiner des leaders du Hamas, qu'ils soient politiques ou militaires, mais après, le Hamas, c'est aussi une idéologie, c'est aussi un mouvement politique, ça fait partie des gens aussi.
Est-ce qu'une situation politique comme ça, où est-ce que tant de civils meurent, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça a le potentiel de radicaliser.
Tout à fait.
Comment on peut sortir de ça, tu sais?
L'enfant qui grandit dans cet environnement-là, que son père s'est fait tuer, qu'il a tout perdu, qu'il n'a plus aucun espoir,
la guerre radicalise tout le monde.
Exactement. Que ce soit dans ce pays-là ou ailleurs, en Syrie ou en Irak, on l'a vu avec Daesh, les jeunes se radicalisent quand ils n'ont aucun avenir devant eux, puis aucune solution. Là, c'est universel, je dirais.
Fait que bref,
je pense que même les Israéliens, selon ce que je lis dans la presse israélienne, ne savent pas quelle est la prochaine étape.
C'est
bien là le danger. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura éradiqué le Hamas? Est-ce qu'on occupe Gaza? Est-ce qu'on contrôle le territoire? Mais est-ce qu'on a envie de contrôler une population qui sera hostile à Israël? Je sais pas. Donc, il y a des informations qui ont fuité, certains de mes contacts chez Affaires mondiales Canada, entre autres, qui ont dans leur carton certaines hypothèses. Et l'une des hypothèses, ce serait que, par exemple, Israël vide la bande de Gaza, s'organise pour que les gens quittent complètement, puis pour avoir la paix, pour ne plus avoir une population ou le Hamas à côté. Et il y a d'autres hypothèses dans les cartons qui sont que Israël va en profiter pour accélérer la colonisation en Cisjordanie, donc pour des raisons sécuritaires, ou en tout cas officiellement sécuritaires, on va annexer des grands pans de la Cisjordanie, notamment la zone C et la zone B.
Mais je pense que, tu sais, cette idée-là que s'il y a une espèce de chaos politique que je pense que même les experts en Israël ont de la misère à essayer de prédire.
Ouais.
Je pense que tout le monde peut faire des scénarios planning qui ont comme 12 scénarios, puis on pourrait peut-être arriver aux mêmes 12 scénarios, des scénarios très optimistes, très pessimistes. Mais là, voilà, c'est très...
Le scénario numéro 1, évidemment, on ne connaît pas les plans et les motivations derrière chaque move, mais tu sais, est-ce qu'on peut penser que c'est l'objectif ultime d'Israël de juste comme essayer de déplacer ces gens-là puis que le problème soit réglé une fois pour toutes?
Non, mais on ne peut pas penser ça, mais ça fait partie là, des scénarios parce que c'est sûr que le statu quo n'est pas possible.
Mm-hmm.
Les Israéliens n'accepteront pas de vivre
à côté
du Hamas.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Ça a été trop douloureux ce qu'ils ont vécu le 7 octobre. Donc ça, c'est sûr que le statu quo n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? Moi, s'il y a une chose que j'ai bien apprise en vivant là-bas puis en travaillant comme journaliste pendant 4 ans, c'est que ne faites pas de prédictions sur le conflit israélo-palestinien parce que vous allez être surpris dans le détour. Il y a toujours... c'est complexe. Il y a plusieurs acteurs qui ont des intérêts aussi dans ce conflit-là. Des acteurs, bien sûr, les Palestiniens, les Israéliens, mais aussi de façon beaucoup plus large. Il y a toute une géopolitique, des acteurs régionaux. Donc... moi, je ne jouerai pas à la maline en essayant de faire des prédictions. C'est pas possible. Ce sont bien sûr que des hypothèses pour l'instant. Mais une chose est sûre, c'est que le statu quo, ça marche pas.
Il va falloir
que les choses bougent.
Je peux peut-être évoquer un scénario qui m'inquiète, puis j'espère encore qu'on va être capable de prévenir. Mais évidemment, on en a parlé, faut prévenir la mort de civils additionnels.
Mm-hmm.
Puis toute cette dynamique de vengeance, il faut la prévenir pour être sûr que tout ce qui sort politiquement de Gaza puis d'Israël soit pas encore plus cruel les uns envers les autres que ça a déjà été. Mais tu sais, comme Canadien, comme Québécois, on a un lien particulier au Liban aussi, par exemple, parce qu'on a énormément de gens d'origine libanaise au Canada. On a un lien à travers la francophonie très fort, tu sais, comme intellectuel, aussi expert du Moyen-Orient. Il y a toute une espèce de monde intellectuel très fort qui vient de Beyrouth aussi. Faut se souvenir que le Liban en particulier a vécu beaucoup de crises récemment. Bien évidemment, l'explosion dans le port de Beyrouth. Il y a une crise politique de corruption qui est liée aussi à ça. Puis le Hezbollah, qui est un groupe terroriste, qui est aussi un parti politique qui est représenté de manière formelle dans cette espèce de système politique où est-ce qu'il y a des rôles préassignés, que ce soit à différentes entités politiques. Moi, je suis inquiète pour tout ce qui se passe là, puis je suis très inquiète pour le Liban. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très, très dangereux, c'est que dans cette espèce de fragilité gouvernement de transition politique au Liban, je veux vraiment pas que ça pète au Liban en plus, parce que c'est une énorme population qui a aussi beaucoup souffert, puis qui soutiennent pas nécessairement le Hezbollah, mais comme les Palestiniens, ils peuvent aussi devenir le dommage collatéral, la punition collective de ce qu'ils peuvent pas contrôler, c'était que c'est le Hezbollah commence à attaquer, et là, il y a un va-et-vient. Alors moi, là, ce qu'il faut prévenir, c'est faut protéger la vie des civils, puis il faut vraiment prévenir que ça va s'étendre par la région. Ça pollue encore, là. Faut que tout le monde fasse tout ce qu'ils peuvent pour que ça ait lieu. Parce que si ça commence à aller au Liban, là, ça va être hyper dur.
Tu sais, c'est une leçon à tirer de tout ça aussi, puis la leçon aurait dû être faite avant, là, c'est que les Israéliens, ils ont une expression pour gérer Gaza. Ils disaient toujours « on va tondre le gazon ». C'est-à-dire que c'est une stratégie, peut-être je vous en ai parlé quand je vous ai visité.
Oui, j'ai entendu ça la semaine passée, mais bon, peut-être qu'on s'en parlait aussi.
Et donc, c'est de dire aux 2, 3, 4 ans, on bombarde les capacités militaires du Hamas. Et donc, de cette façon-là, le Hamas ne devient jamais assez puissant pour représenter une menace. Puis c'est une façon pour Israël aussi de diviser les Palestiniens et de ne pas négocier la paix avec eux, parce que Israël dit on peut pas négocier avec deux acteurs différents, un seul interlocuteur.
Ils sont en guerre de toute façon.
Ils sont en guerre.
Ils veulent pas
exactement
négocier ensemble.
Le Hamas et le Fatah.
Hamas veut pas négocier anyway.
Exactement. Ouais. Donc ça servait bien le statu quo d'une certaine manière, Israël, qui pouvait poursuivre son entreprise de colonisation, entre autres, en Cisjordanie. Et donc là, cette stratégie-là de couper le gazon, mais aussi de construire des murs, que ce soit celui de Gaza ou celui en Cisjordanie, de poursuivre la colonisation et l'occupation, clairement, c'est une stratégie qui ne mènera jamais à la paix et qui ne fonctionne pas, ni pour assurer la sécurité des Palestiniens, ni pour assurer leur propre sécurité.
Je pense pas qu'ils prétendent eux-mêmes que ça va mener à la paix.
Tout à fait.
Le gouvernement
c'est
Netanyahou
pas leur objectif.
S'est jamais dit qu'il était pour la paix.
Mais clairement, les murs...
C'était de faire comme si ça se contenait. Comme
mais clairement, les murs et le blocus, ce sont pas des solutions pour assurer leur propre sécurité, puis on en a eu la preuve.
Tantôt, tu posais la question comment on va se souvenir de ce conflit-là, puis comment on va le regarder plus tard. Puis tu sais, tantôt, je posais la question à partir de combien de civils on commence à dire ben là, c'est pas juste une guerre normale, tu sais. Puis surtout, de nos jours, tu sais, l'armée israélienne, les armées justement les mieux outillées, les mieux équipées, les mieux entraînées, tout ça, qu'on soit encore à la technique d'envoyer des roquettes sur un territoire, puis qu'il y ait autant de dommages collatéraux, je peux pas croire qu'il n'y a pas une manière plus précise de frapper, plus efficace, de viser plus directement seulement les membres du Hezbollah sans qu'il y ait autant de civils du Hamas, sans qu'il y ait autant de civils qui meurent. Est-ce qu'on va regarder ça plus tard, puis est-ce qu'on va juger ça, puis condamner ça?
Est-ce que je peux proposer quelque chose? J'ai envie de dire que, tu sais, moi j'ai un petit garçon là, qui est très jeune, puis j'ai l'impression que quand ils vont regarder notre génération, t'sais, ils vont pas se poser la question sur la roquette. Ils vont se poser une question beaucoup plus large que ça. Ils vont se dire, coudonc, tu sais, vos parents, vos grands-parents, ils se sont battus en sortant de la Deuxième Guerre mondiale pour bâtir des outils d'un système multilatéral qui était supposé de faire en sorte que la paix fonctionne. OK? Qu'il y ait des cours pénales internationales, qu'il y ait des casques bleus, qu'il y ait l'ONU. Mm-hmm. Ça n'a jamais été parfait, OK? Mais il y avait des choses qui existaient, qui ont été bâties avec une vision très occidentalo-centrée. Le Sud global, comme en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde faisait comme ça n'existait pas, là. Mm-hmm. Puis, ou bien c'est encore colonisé, puis ça laisse décoloniser avec plein de dynamiques postcoloniales aussi après. Mais je pense qu'ils vont se dire, comment vous avez abandonné? Parce que là, on est rendu, malheureusement, là, tout ça explose, c'est horrible parce qu'on a laissé faire, puis parce que la majorité des pays occidentaux, dont le Canada, a décidé qu'on s'inquiétait plus du Moyen-Orient. Tout le monde a dit, il n'y a rien à faire avec le conflit israélo-palestinien, on ne va pas dépenser de l'énergie politique là-dedans, ça ne marche pas. Les derniers leaders qui ont fait des derniers efforts pour essayer de négocier quelque chose, sous Obama, John Kerry essayait quelque chose, Tony Blair essayait quelque chose, mais rien ne marchait. Fait qu'un peu, c'était vu comme le cimetière des bonnes intentions diplomatiques. Fait qu'ils ont dit, il n'y a rien à gagner là-dedans, on laisse faire, puis on ignore. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas juste faire une stratégie puis avoir une priorité puis dire, moi, c'est maintenant le commerce en Asie. On a parce qu'on est des pays privilégiés, développés, parce que beaucoup des grandes puissances ont été des puissances coloniales dans ces régions-là, on a une responsabilité comme communauté internationale. Puis j'ai envie de dire que la prise de conscience, elle ne commence pas maintenant. Elle commence à comment on a commencé? On a abandonné la construction de ce système multilatéral-là qui était supposé d'avoir des processus pour négocier la paix, pour soutenir les civils, la Charte des droits humains. Maintenant, il y a des gens qui disent là, que la Déclaration universelle des droits humains, dont on fête l'anniversaire cette année, elle ne serait plus jamais écrite aujourd'hui.
Ouais.
Tout le monde se battrait sur l'écriture de ce qui est quelque chose d'assez simple et banal dans le terrain.
De base.
Ouais, c'est juste comme la dignité humaine. Alors moi, je me dis, c'est Gaza, OK? C'est Gaza aujourd'hui, puis j'espère que ça ne sera pas Gaza demain, mais en ce moment, c'est terrible, puis dans notre génération, c'est une grande cicatrice, puis mais il y a aussi Haïti, il y a aussi l'Ukraine, il y a plein de choses. Il y a les femmes en Afghanistan qu'on a abandonnées. Je pense que c'est pas juste parce qu'on pense toujours que notre époque est plus importante, mais je pense que malheureusement, ce qui marque notre époque, c'est un abandon du système multilatéral, et ça, c'est extrêmement grave.
Je suis d'accord sur la responsabilité collective, puis pour répondre aussi concrètement à ta question, Israël a la capacité de faire des frappes ultra précises. On l'a vu dans le passé quand il ciblait, par exemple, des dirigeants du Hamas, ou avec un certain type de missile, là, je ne suis pas experte en balistique, mais où il y avait juste l'appartement dans un gros building qui avait été détruit. Donc, il y a ça.
Mais ils peuvent le faire.
Ils peuvent le faire, mais je vais ajouter un « mais ». Si leur but, c'est d'éradiquer le Hamas, il faut savoir que le Hamas a tout un réseau de tunnels. C'est des centaines de kilomètres sous terre. Et ça, pour neutraliser ces tunnels-là, donc pour les détruire, on détruit nécessairement des quartiers résidentiels. Pour détruire des entrepôts d'armes et tout ça, souvent, tu sais, la bande de Gaza, on le dit depuis tantôt, c'est tout petit, c'est densément peuplé, c'est une quarantaine de kilomètres par une douzaine de kilomètres. Donc, nécessairement, les entrepôts d'armes et tout ça, ça peut être dans un quartier résidentiel ou à proximité. Donc, le Hamas fait partie physiquement de cette population-là. Je ne suis pas en train de dire que donc on peut bombarder puis c'est pas grave qu'il y a des victimes civiles, au contraire. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'éradiquer le Hamas sans faire de victimes civiles pour ces raisons-là, entre autres. Si on veut détruire tous les tunnels, couper leur armement puis cibler les dirigeants, ben nécessairement, c'est des bombardements de grande ampleur.
Puis pour aller frappe terrestre, c'est une guérilla dans des villes sur le territoire contrôlé par le Hamas, en fait.
Ben,
c'est des victimes militaires israéliennes par probablement milliers.
Ben, l'opération terrestre, ça va être un peu compliqué parce qu'on risque d'assister à des combats de rue. C'est le territoire, le terrain de jeu du Hamas. Je vous le disais, il y a des tunnels, donc par exemple, et déjà tous ces tunnels-là puis les bâtiments ont été piégés en amont parce que le...
Il y a des otages aussi qui sont cachés sous terre.
Oui, exactement.
Qui sont cachés sous terre.
Oui, probablement. Et donc, ils ont prévu cette opération-là contre Israël, donc probablement qu'il y a beaucoup de pièges et tout ça. Donc, ça va être compliqué compliqué pour l'armée israélienne et ça risque de coûter cher en vie humaine. Par exemple, ils peuvent utiliser un tunnel pour sortir en arrière. Ils peuvent être sur le toit de certains grands bâtiments, tirer des roquettes sur le toit d'un tank qui est beaucoup plus fragile que les côtés. Bon. Et donc, oui, ça va être compliqué et coûteux d'entrer physiquement avec des troupes au sol à Gaza.
Ça me fait penser peut-être là, visuellement à la dernière opération de ce type qui est extrêmement médiatisée et c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand en Irak, ils essayaient de reprendre Mossoul qui était contrôlé par Daesh. On voyait vraiment de rue à rue, de coin de rue à coin de rue, toute la complexité d'une ville à moitié détruite.
Dans c'est ça aussi, oui.
Ça va ressembler, c'est pas la même chose, hein, puis il y a d'autres enjeux, mais ça va ressembler à ce que visuellement
physiquement,
on a peut-être
là,
vu
ouais.
dans la reprise de, dans la prise de Mossoul.
Donc c'est pour ça qu'ils... Pour l'instant, j'imagine, se garde une gêne de rentrer là complètement.
Je pense que, je sais pas, tu sais, on peut pas savoir la stratégie, mais ça fait longtemps qu'ils en parlent parce que c'est trop dangereux. À cause des civils, à cause de
pourquoi à cause des otages aussi. Il y a des pressions américaines en ce moment pour dire retardez votre opération terrestre parce qu'on est en train de négocier en coulisses pour la libération de plusieurs otages. Donc, il y a ça. Il y a aussi que s'ils déplacent beaucoup de troupes vers Gaza, ben tu dégarnis d'autres fronts, notamment la Cisjordanie où il y a eu beaucoup de tensions depuis le début. On n'en parle pas de la Cisjordanie, mais il y a eu une centaine de Palestiniens qui ont été tués, dont une trentaine d'enfants, d'adolescents, dans des heurts, dans des affrontements avec l'armée israélienne. Il y a eu beaucoup de Palestiniens qui ont été victimes d'attaques des colons aussi israéliens. Tout ça, ce sont des conséquences, bien sûr, des tensions entre Gaza et Israël ou entre Israël et le Hamas. Donc, il ne faut pas non plus dégarnir d'autres fronts parce que ça peut être compliqué. Donc, il y a plein de stratégies militaires comme ça qu'ils doivent analyser, mais ils ont aussi des pressions extérieures pour dire « Attendez avant de faire une opération terrestre. » Et surtout, vous allez faire quoi de Gaza après? Avant d'entrer, il faudrait peut-être connaître le prochain coup.
Rester là après. Là.
Faudrait peut-être connaître le prochain coup.
Ouais. Merci beaucoup. C'était fascinant. Puis, on va essayer de... À moins que tu as quelque chose à rajouter, moi, ça fait...
Non, non, mais je pense qu'on a fait, à moins qu'il y ait des points que vous auriez aimé parler, qu'on n'a pas parlé, je pense qu'on ça nous donne une compréhension vraiment meilleure de la situation. On va essayer de sortir le podcast le plus rapidement possible, je pense. Puis,
Merci. Mais merci pour merci l'invitation. Beaucoup. C'est tellement important d'en parler merci. Parce que c'est polarisé. Donc, il y a beaucoup d'explications et de travail d'éducation à faire sur ce conflit-là.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci. Au